bien. Bonsoir tout le monde. Donc, ça marche, vous m'entendez? Donc voilà, nous invitons monsieur et madame Biais autour de cette table pour le premier point, mais je vais d'abord commencer par faire l'appel des conseillers. Viviane Aït Taleb, Jean-Baptiste Albanaise, présent. Loïc Allioum, Amin Amar, présent. Thierry Annex, présent. Besserve Laurence, Alain Bideau, présent. François Brochin, présent. Philippe Cornichet, présent. Leïla Farouge, présent. Thierry Fauchou, présent. Sylvain Illion, Quentin Jagorel a donné pouvoir à M. Brochin, Nicolas Jaouen, présent. Soisic Labou-Morin, présent. Alice Landais, présent. Stéphanie Lapi, présent. Guirec Lebris a donné pouvoir à Karine Lepinois-Lefrène, Morvan Legentil, présent. Karine Lepinois-Lefrène, Jean-Yves Loury, présent. Nadège Lucas, présent. Séverine Massé, présent. Frédéric Mignon, présent. Marianne Pabeuf, Timothée Femme, René Piel, Bruno Rouon, présent. Sabine Rouanet, présent. Erwan Sauvaget, présent. Lénaïque Stéphane, Béatrice Tancret a donné pouvoir à Nicolas Jaouen, Martine Tomasi. Présent. Merci. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir cette séance du Conseil municipal du 24 janvier 2024 et je vais procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Marianne Pabeuf, voulez-vous être secrétaire de séance? Très bien, Marianne Pabeuf, secrétaire de séance. Et donc nous allons commencer par approuver le PV de la séance précédente. Je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des remarques? Monsieur Bideau?
Et bonsoir tout le monde. Alors, nous ne pouvons pas approuver un tel texte où la majorité paraît comme inerte, inactive, totalement silencieuse. Alors, tout d'abord, en préambule, nous rappelons que, comme pour chaque conseil, nous avons fait suivre nos interventions écrites au service. Nous constatons que le contenu de ce PV est très pauvre. Il n'y a que les interventions de l'opposition et des dissidents de votre majorité. Nous avons pourtant fait l'effort, les 5 élus de l'opposition, de retranscrire un certain nombre de nos interventions improvisées et de les situer, ou écrites, hein, et de les situer par rapport aux réponses et interventions de votre majorité, dont celles de vos dissidents. Il suffisait que les personnes concernées valident et complètent ce que nous avions écrit, s'ils l'avaient oublié. Nous nous rendons compte que personne dans la majorité, à part les dissidents, n'a fait l'effort de retranscrire ses propres interventions effectuées lors du conseil municipal. Il pourrait être intéressant que chacun prenne à cœur son rôle d'élu. Vous n'avez fait aucun effort de mémoire. Certains diront peut-être que vous préférez oublier. Nous sommes, nous, en pleine transparence, depuis toujours. Nous nous rendons compte également que la secrétaire de séance, Madame Pabeuf, ne semble pas avoir fourni grand-chose d'utilisable par les services, puisqu'on ne retrouve même pas la trame des débats et interventions. C'est vrai qu'en général, cela ne sert à rien, la secrétaire de séance, car les services peuvent travailler en totale autonomie, mais nous pouvons supposer que les services auraient apprécié un tel support cette fois-ci. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les services avaient d'abord proposé de fournir un PV plus respectueux des échanges qui se sont tenus lors de notre conseil municipal de décembre, mais un petit doigt pourrait nous dire qu'on leur a donné des consignes pour que cela ne soit pas le cas, pour limiter le travail des élus de la majorité. Il semble nécessaire d'ajouter des sécurités à notre dispositif de captation de nos échanges afin d'informer la population, et nous demandons que la visio soit remise en place, comme c'est le cas dans de nombreuses communes, par exemple dernièrement à Saint-Grégoire, lors de l'installation du nouveau conseil municipal le 12 janvier. En ce qui concerne les retranscriptions que nous avons transmises, mais qui n'apparaissent pas dans le PV, nous vous proposons une remontée chronologique. L'intervention écrite et lue de Thierry Annex sur l'approbation du PV précédent n'apparaît pas. Ce texte doit apparaître, tout comme apparaîtra l'intervention que je suis en train de faire, dans le prochain PV. L'expression de Madame la maire, « j'ai l'impression de vivre un sketch », en réponse à l'intervention de Nicolas Jaouen, n'apparaît pas non plus. Nous pensons que tout le monde autour de cette table se souvient parfaitement, et cela doit figurer dans le PV. En ce qui concerne l'explication de la redistribution des indemnités entre élus, Madame la maire expliquait que la troisième proposition faite par Thierry Annex explique que de nouveaux postes de conseillers délégués n'ont pas été créés, les autres conseillers municipaux ne veulent pas s'investir plus, les indemnités non dépensées rejoignent donc le budget principal. Nous pensons que tout le monde s'en souvient, et cela doit figurer dans le PV. En ce qui concerne le point sur le CLSPD, Madame la maire avait répondu que c'était trop tard. Sur la gendarmerie, pardon. Madame la maire avait répondu que c'était trop tard pour avoir les chiffres de 2022, mais que nous aurions bientôt les chiffres de 2023. Nous avions répondu que l'un n'empêchait pas l'autre. C'est un échange intéressant que certains avaient peut-être oublié, mais qui mérite de figurer sur le PV. En ce qui concerne le point sur le commerce équitable, entre l'intervention de Philippe Cornichet et la mienne, il manque une petite phrase de Madame la maire, sa formule magique. Il s'agit là de questions qui devraient être posées en commission. Et après mon intervention courte, nous avions repris par écrit les quelques pistes de réponse que nous avions obtenues sur le sujet, que nous n'allons pas reprendre ce soir, et aucune n'apparaît dans le PV. Libre à votre majorité, pourtant, de les compléter avec ses propres mots. En ce qui concerne les questions diverses, aucune des réponses de la majorité ne figure au PV, alors que nous vous avions fait une retranscription écrite assez détaillée de nos échanges. Enfin, il semble qu'il reste dans le PV un point autre, qui ne correspond nullement à ce que j'ai pu dire lors du conseil municipal. Donc, voici ce que nous avions écrit dans le petit récapitulatif de nos interventions. Nous ne savons plus à quel moment exact Thierry Annex a fait cette remarque à Madame la maire, alors qu'il venait d'obtenir difficilement la parole. Il faudrait nous expliquer quel est le fonctionnement de ce conseil municipal, car on ne sait plus si on a le droit d'intervenir et à quel moment il faut qu'on demande la parole. Voilà. Nous espérions que sur ce point-là, la majorité aurait su nous rafraîchir la mémoire. Voilà. J'ai fait le tour.
Merci. Donc, je vais rappeler juste ce qui s'est passé la dernière fois, en fait. Voilà, il y a eu un problème. Alors, il y a d'autres interventions ? Voilà, donc, non, parce qu'on va, voilà, je vais répondre globalement. Donc, Monsieur Bidou, vous aviez cette question et ces observations. Monsieur Jaouen, allez-y.
Ce qu'a dit M. Bidot est tout à fait juste. Effectivement, j'ai aussi envoyé mes interventions, elles ne figurent pas forcément. Et puis de même, la lecture du mail que je vous avais écrit, qui a été lu en séance, ne figure pas non plus dans ce PV. Et je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir les échanges que nous avons. Vu que vous l'avez lu en séance, c'est que ça a sûrement un intérêt.
Donc je rappelle qu'il y a eu un problème technique sur l'enregistrement audio du Conseil du 13 décembre. Donc nous avons sollicité les uns et les autres pour éventuellement nous faire part de leurs remarques s'ils s'en souvenaient. Donc c'est sans doute plus facile pour certains, quand on a préparé un texte, de donner le texte et tout ça. Mais pour notre part, on répond spontanément. Et donc de se souvenir après plusieurs jours de ce que nous avons dit spontanément, tout en ayant plein d'autres dossiers à préparer, puisque la vie de la commune continue. Voilà, c'est la raison pour laquelle tout le monde n'a pas forcément fait ses remarques. Donc je pense que les remarques que vous nous avez remontées, vous les aviez préparées vous aussi de votre côté, de manière écrite au préalable du Conseil, donc sans doute plus facile pour vous. Alors quand vous dites que ça illustre l'engagement des membres du conseil municipal, bon, bah, je laisserai mes collègues apprécier, mais c'est quelque part une insulte envers nous. Je vous en remercie. La visio, nous avons dit que ça mobilisait beaucoup de personnel au regard du rendu que ça faisait dans la population. Et à côté de cela aussi, on ne peut pas forcément dire que la visio soit d'un impact environnemental nul, voilà, et au regard de ce que cela procure. Donc nous repartons pour des enregistrements audio qui, je l'espère, cette fois-ci marcheront. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi sur le PV d'un conseil municipal, dans le règlement intérieur, il est dit que le PV ne reprend pas de façon exhaustive tous les débats du conseil. Donc moi, c'est la raison pour laquelle je le mettrai aux voix dans cette forme-là, parce que ça va être très difficile de se souvenir de tout ce qu'on a dit, et puis l'année recommence, enfin les sujets sont multiples, et je pense que celui-ci n'est pas forcément le prioritaire aux yeux des bétonnais, même si ça parle de la communication, c'est un des conseils sur le nombre que nous aurons dans le mandat. Un problème technique, ça arrive. Vous avez transmis vos remarques, voilà, on les met dans ce PV et je mettrai ce procès-verbal aux voix. Donc, alors, Thierry Annex, Alain Bidot, Sozy Clabou-Morin.
En effet, nous partageons votre remarque que le procès-verbal, ce ne sont pas des minutes. C'est-à-dire, c'est pas mot pour mot, bien entendu. Mais ce qui est étrange, à deux titres, c'est que les observations que l'on vous a fait remonter n'apparaissent pas dans le procès-verbal proposé ce soir. Et deuxième chose, c'est simplement une remarque de dire que les élus de votre majorité qui sont intervenus auraient pu, en effet, comme vous d'ailleurs, donner l'esprit de l'intervention et non pas un silence radio. On a l'impression qu'au conseil municipal, vous n'étiez pas là, quoi. La majorité n'était pas là. Il n'y avait que l'opposition, mettons, responsable et solidaire, et les dissidents de votre majorité. C'est étrange. Voilà, c'est tout simplement pour ça.
Monsieur Bidot.
Alors, je partage évidemment. Je n'ai pas l'impression de vous avoir insulté. Une critique n'est pas une insulte, déjà, d'une part. Après, c'est vrai que les critiques peuvent être désagréables à entendre, mais ce n'est pas une insulte pour autant. En ce qui concerne l'effort de chronologie, je ne sais pas si vous avez lu le mail qu'on a transmis, mais l'effort de chronologie a été fait après le conseil municipal. Il y a pas mal de choses qui ont pris beaucoup de temps à faire, mais enfin, vous ne pouvez pas savoir combien de temps ça prend, puisque vous n'avez pas fait ce travail-là. Et ça a été fait après, pas sur la base d'écrit, mais sur la base de ce dont on se souvenait, et à partir du moment où on a appris qu'il y avait un problème d'enregistrement. Donc on n'a pas anticipé le fait qu'il y aurait un problème du micro non plus. Et enfin, comme vous dites, en effet, le PV ne doit pas être exhaustif. Donc ce qu'on peut envisager, c'est qu'il y a au moins la trame, et la trame, tout le monde l'avait en tête. Il y a au moins des échanges où on voit clairement que les échanges, il nous manque une discussion, il y a forcément deux personnes. Donc s'il manque la moitié des échanges, c'est beaucoup plus difficile à lire pour la population. Et l'intérêt aussi, ce serait d'avoir une cohérence entre tous les PV. Donc on ne peut pas, parce qu'on dit tout à coup qu'il y a un micro qui ne marche pas, on enlève les remarques qui ne nous plaisent pas et puis on garde celles qui nous intéressent, parce qu'après tout, ça ne doit pas être exhaustif. Voilà, ça doit être représentatif et cohérent sur l'ensemble des PV.
Sozy Clabou-Morin.
Merci Madame la Maire. Je vous remercie d'avoir souligné l'empreinte environnementale de la visio. Parce que effectivement, nous souhaitons tous ici, je pense, réduire notre empreinte écologique. C'est une priorité. Et c'est ce qui explique aussi le fait de privilégier l'audio à la visio, à la vidéo. Voilà, merci.
Bien, merci. Donc, c'est moi qui dirige les débats. Relisez le règlement intérieur. Avec toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez aussi relire le règlement intérieur. Un PV peut ne pas être exhaustif. Par prudence, on a mis l'avertissement, on reconnaît le dysfonctionnement audio. Vous nous avez transmis vos remarques, on les a intégrées. Celles que vous disiez, Madame la Maire a peut-être répondu dans ce sens-là, vous avez fait des remarques sur les propos d'autres élus, on ne les a pas pris en compte. Donc je mettrai aux voix ce PV, vous avez le droit de vous abstenir, mais je le mettrai aux voix. Donc je sais pas si l'intervention. Bon, on va reprendre les. Voilà. Ah oui. Non, mais il manque tellement de choses. Mais un procès-verbal, allez voir les procès-verbaux dans d'autres communes, c'est beaucoup plus succinct cela. Et je trouve que par rapport au travail que fournissent les services, quand un procès-verbal fait 30 pages, voilà. Donc, je mets aux voix ce procès-verbal avec cet avertissement qu'il y a au départ. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. À l'unanimité. Alors, 10 positions. Oui. Hop. Bien. Nous passons au point suivant. Non, c'est 11. C'est 10 plus le pouvoir. 11 oppositions. Bien. Nous passons au premier point de cet ordre du jour du Conseil municipal. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Biais pour nous faire un point et nous présenter l'association Défi. Mais avant cette présentation, je vais laisser la parole à Thierry Fauchoux.
Oui, merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ravi effectivement de vous accueillir ce soir parmi nous. C'était une demande qui a été exprimée à la fois par vous lors de la dernière Assemblée générale, le souhait de venir présenter à l'ensemble des élus les actions menées par Défi et notamment les actions qui sont accompagnées par la ville. Et notre souhait à nous également de vous donner la parole ce soir de manière effectivement à ce que chacun et chacune puisse savoir précisément ce que vous accompagnez et ce que la ville accompagne. Chaque année, on vote une subvention d'accompagnement et chaque année, ça accompagne des actions particulières. En 2022, c'était des salons de beauté dans les villages de Madagascar. Et en 2023, c'était des toilettes sèches dans une école primaire. Alors, Défi, développer, former, informer, je ne vais pas en dire plus longtemps, je vous laisserai vous exprimer là-dessus. Ce qui est juste important à savoir, c'est qu'accompagner Défi, ça permet à la ville de mettre en œuvre sa volonté de solidarité internationale, comme on le fait avec d'autres actions autour. Je pense entre autres les soutiens qu'on apporte à Béton Solidarité de manière régulière, ou encore les soutiens qu'on apporte de manière ponctuelle sur des événements tragiques, et je pense entre autres à Haïti, au séisme qu'il y a eu au Maroc et en Turquie, ou encore à l'Ukraine. Merci à vous d'être là. Donc une présentation qui va durer à peu près 15-20 minutes, deux défis, des actions de défis, de la situation de défis aujourd'hui, et puis avec un focus précis sur les actions qui sont accompagnées par la ville. Et puis ensuite, on aura 10-15 minutes de questions et de réponses, donc d'échanges, et chacune et chacun d'entre vous pourront exprimer et interpeller des filles sur les accompagnements, mais je vous laisse tout de suite la parole.
Je voudrais d'abord remercier Madame la maire et Monsieur Fauchoux, donc, qui nous ont permis d'être là ce soir et de pouvoir vous présenter ce que fait des filles depuis 1988, parce que des filles est une vieille association. Je voudrais aussi remercier M. Brochin qui nous a accompagnés pendant des années et des années, qui n'a jamais raté une assemblée générale de défi. Alors pourquoi on est là ce soir ? La première raison, c'est une question de redevabilité à l'égard de la mairie. C'est pas moi qui vous apprendrai que la commune, c'est la structure sociale qui est la plus proche du citoyen. Et nous, le fait de recevoir des financements de la part de la mairie de Béton, c'est un témoignage, c'est une sorte de caution morale vis-à-vis des autres organismes auprès desquels on va se présenter pour demander des financements, pour montrer notre ancrage local et la confiance que vous nous accordez. Et ça depuis près de 20 ans maintenant, c'est une histoire ancienne. Donc nous, quand on va à Paris, on se présente toujours comme breton et on insiste sur la chose, mais aussi comme bétonnais, peut-être même d'abord comme bétonnais, grâce à cet appui que vous nous apportez, qui nous permet aussi de nous adresser à la ville de Rennes, à Rennes Métropole, au département, à la région, et après à des organismes de niveau national comme l'AFD, l'Agence française de développement, ou d'autres fondations. Voilà. Donc l'appui de la commune, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. On va peut-être passer le diaporama que je vais commenter. Je crois qu'il y a quelque chose avant. C'est la première image, ça ? Bon, oui, c'est Yante qui a tenu à mettre ça de façon à ce que je me présente. Il y en a parmi vous qui me connaissent en tant qu'ostéopathe. Ça va faire une petite vingtaine d'années que je suis ostéopathe à béton, mais j'ai fait bien d'autres choses avant. J'étais ingénieur agro. Et même après, si j'ai changé de métier, on a continué à travailler sur des projets de développement, puisque c'est mon premier métier. J'étais agroéconomiste. Donc vous avez la liste des pays dans lesquels je suis passé. Il en manque un, c'est la bande de Gaza, et c'est d'actualité puisque j'ai eu l'occasion de faire deux missions dans la bande de Gaza dans les années 90. Ça c'est une phrase que j'avais écrite dès 88 quand on avait créé notre association à Madagascar. L'idée c'est de dire que le développement d'une nation ou d'une collectivité dépend de la connaissance et de la compréhension que cette société a d'elle-même et de son environnement. Connaissance et compréhension, pour moi, c'est deux notions bien différentes. On peut dire « je connais quelqu'un », ça ne veut pas dire qu'on le comprend. Mais pour le comprendre, il faut d'abord le connaître. Et le développement, c'est ça. C'est d'abord de donner aux populations avec lesquelles on travaille la capacité à connaître cet environnement et à le comprendre. Et dans un deuxième temps, de s'organiser pour relever les défis auxquels ces sociétés sont confrontées. Défi, c'est une petite structure, mais ce qui fait sa richesse et ce qui fait sa force, c'est que Défi, c'est une sorte de laboratoire d'idées. Toutes les actions que nous avons menées sont toutes des actions, et ça depuis le début, depuis la naissance de Défi, ont toujours été des actions innovantes. Et ce qui est intéressant, c'est que les actions à petite ou moyenne échelle que nous avons mises en œuvre ont ultérieurement impacté sur les politiques nationales des pays dans lesquels nous sommes intervenus. Alors d'abord, oui, on a eu une première histoire à partir de 88 qui était une action de développement rural, et l'idée c'était de dire qu'on ne peut pas faire d'un projet sectoriel. On ne peut pas développer l'agriculture si vous n'avez pas des gens en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir des gens en bonne santé si vous n'avez pas une agriculture qui permet de les nourrir, vous ne pouvez pas avoir une agriculture qui progresse si vous n'avez pas des artisans capables de fabriquer et de réparer des outils agricoles, et ainsi de suite. Donc il y a toute la chaîne qui doit être mise en place pour favoriser le développement des communautés rurales. Et cette démarche aussi qui visait à faire émerger parmi les paysans, d'abord de faire évoluer des paysans vers des agriculteurs, parce qu'on peut être paysan, c'est une petite subtilité de langage. À Madagascar, comme dans beaucoup de pays, mais à Madagascar en particulier, l'État n'a aucun interlocuteur. Il n'y a pas de représentant. En France, on a la FNSEA, il y a la CONF, enfin, il y a des structures. L'État a en face de lui des gens avec qui on peut discuter. Voilà. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des communes jusqu'au niveau de l'État, il y a des interlocuteurs. Dans un pays comme Madagascar, je vous rappelle, c'est 600 000 km², c'est grand comme la France et le Benelux, donc c'est beaucoup plus grand que ça n'en a l'air. C'est un des 10 pays les plus pauvres du monde, et l'année dernière on était 124e sur 125 pour les vraiment tout en bas de la liste pour des problèmes de faim. Et donc pour nous l'important c'était qu'il y ait ces représentants du monde agricole qui soient capables de discuter avec les différentes structures, et ça a été repris au niveau national. Pas que, il y a aussi des innovations techniques qui ont été reprises, mais ça c'était vraiment quelque chose d'important. Après, à partir de 2000, on s'est dit quelle action on peut mener pour que, en étant petit, on ait un impact fort sur l'histoire ou sur le développement d'un pays. Je vous ai dit, il y a un élément qui est essentiel, c'est l'éducation, et en particulier l'éducation primaire. Aujourd'hui, en France, il y a le primaire, il y a le secondaire, et puis il y a les études supérieures. À Madagascar, ceux qui ont la chance d'aller dans le secondaire, ça commence à être une tranche relativement restreinte. Ceux qui font des études supérieures, c'est une infime minorité. Par contre, il y a une scolarité qui, au cours des 10-15 dernières années, il y a une scolarité qui se fait au niveau de l'ensemble de la population et qui touche pas loin de 90% de la population, ce qui ne veut pas dire que 90% des enfants font tout le cycle primaire. Souvent, ils font une année, deux années, il y a beaucoup de... beaucoup de déperditions en route. Et s'il y a un socle solide au niveau de l'école primaire, ça permet après d'avoir des enfants qui, s'ils peuvent passer dans le secondaire, tant mieux, mais s'ils s'arrêtent au primaire, ils ont des bases solides. Voilà. Donc pour nous, l'enseignement primaire, c'était essentiel. Et nous avons été les premiers à nous rapprocher de Georges Charpak, qui, après son prix Nobel, a consacré le prix de son prix Nobel à développer la démarche de la main à la pâte, qui était inspirée du hands-on américain, mais en l'adaptant au contexte français, spécifiquement sur l'enseignement des sciences à l'école primaire. Donc nous, on a introduit ça en Haïti, au Bénin, au Togo et à Madagascar. Ça a eu des effets fantastiques pour des tas de raisons. Dans un village, par exemple, un jeune qui revient avec le BEPC, on lui dit « bon, bah, toi, tu as été à l'école, tu seras un stit ». Le gamin, il a 15-16 ans, il n'a jamais fait l'école et on lui colle 4 gamins avec 5 niveaux différents et il doit faire avec. Il n'a jamais été formé à enseigner. Il n'a aucun outil, il n'a pas de manuel scolaire. Les gamins, quand on leur demande d'ouvrir leur sac, ils ont un cahier et un stylo, point barre. Donc pas de bouquin, pas de manuel, rien. Un tableau, quand il y a des craies, enfin c'est peint sur le mur, quand il y a des craies, c'est un miracle. Voilà. Alors que la main à la pâte, ça permet de faire travailler les enfants en groupe. Et donc il y a une efficacité de groupe. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette démarche, c'est que c'est aussi un apprentissage de la démocratie. Et ce n'est pas seulement l'enseignement des sciences, c'est adaptable à toutes les matières. Donc ça, c'est les pays d'intervention jusqu'à une date relativement récente. Donc Haïti, Togo, Bénin et Madagascar. Depuis quelques années, on a recentré, pour des questions de financement d'une part, mais aussi pour des questions stratégiques, on a recentré nos actions sur Madagascar. Là, vous avez sur le tableau le nom des différents... comment on dit quand on est dans le pays ? Oui, quand on le... Voilà, la contextualisation de la main à la pâte. Chaque pays, ça a été adapté à la réalité de chaque pays. C'est pour ça qu'ils ont des noms différents suivant les pays. Maintenant, je vais vous parler des projets spécifiques qui sont à Madagascar. Globalement, DEFI a deux grands axes, c'est les paysans. Alors les paysans, ça va des gamins, des tout petits gamins jusqu'aux vieillards, hein, c'est toute la population, hommes, femmes, enfants, tout le monde compris, et les enseignants et les élèves. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Donc là, il y a quatre tableaux. Donc le premier, c'est l'enseignement. Donc c'est l'UNITAF, c'est la traduction malgache de la main à la pâte. Le deuxième, c'est la mise en place des cibles. Les cibles, c'est des centres d'information villageois, on va en parler tout à l'heure. Après, à travers les cibles, qui est un mélange du premier et des deux, c'est la digitalisation de l'éducation dans les zones de brousse. Enfin, un quatrième module, qui n'est pas notre corps de métier, qui est devenu quasi incontournable, c'est le problème d'accès à l'eau. Dans la quasi-totalité des écoles, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de...
facile à recycler, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de recycler parce que ça ne tombe pas en panne. Donc, on met ça en place. Avant, il y a un travail qui est fait avec le village. Les gens doivent construire un bâtiment. On leur donne les dimensions. Ça doit être à l'abri de la pluie parce qu'on va mettre du matériel informatique dedans. Ils doivent construire le bâtiment. Et après, en installation, il y en a pour une journée. Nos gars arrivent, ils posent des panneaux, ils tirent les fils, on met en place les ordinateurs. On a un gros disque dur externe avec tous les contenus qui sont dedans. Et après, on fait une journée de formation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en une journée, vous avez des jeunes de Brousse qui apprennent à utiliser la souris et qui apprennent à les cliquer, si on peut avoir l'image suivante. Voilà, il y a une interface. Vous avez sur la partie droite les petites icônes avec les différents sujets qui sont mis à disposition des gens. Donc, agriculture, éducation, environnement, divers, des vidéos de tout, il y a vidéos et du son, ça peut être aussi des divertissements, tout ce qui est loi et réglementation, avec juste en dessous le foncier, donc ça va avec, mais c'est spécifique sur le foncier, culture et divertissement, ça en fait, ça peut être scindé parce que culture et divertissement, ça a été mis en place sur l'icône à l'origine, maintenant c'est deux choses qui sont bien séparées. Elle, c'est le monde des femmes, tout ce qui concerne les problèmes spécifiques des femmes. Alors ça va des services digitaux, parce que en fait les femmes elles sont impliquées dans toutes les actions de développement. Que ce soit l'agriculture, l'élevage, que ce soit les problèmes d'environnement, de bois, que ce soit les gamins à l'école, les actrices, tout ce qu'on veut, les femmes sont toujours au cœur du sujet, mais il y a quand même des problématiques très spécifiques, comme par exemple les services digitaux. La digitalisation et la santé. Alors, ça peut paraître un peu osé au départ de mettre en place ce système dans des villages de Brousse très isolés, mais en fait ce système se substitue d'abord à tous les systèmes de vulgarisation qui sont absents. Il n'y a pas de vulgarisateur agricole, il n'y a pas d'animateur de santé, il n'y a aucune formation pour les instituteurs. En plus, ils habitent très loin, ils ont 6 à 8 heures de marche pour venir dans un centre, et quand ils font des formations, bah, ils ne sont plus avec leurs élèves, donc les élèves sont envoyés chez eux. En saison de pluie, impossible de traverser les rivières, donc pendant 4 mois, ils sont bloqués dans les villages, ils ne peuvent pas aller faire des formations de toutes sortes. Donc ce système se substitue, dans tous les domaines qui sont cités, au système de vulgarisation classique. À l'époque, avec cet avantage que nous, à l'époque, quand on faisait de la formation, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nos gars arrivaient dans un village, ils passaient le matin à la théorie, l'après-midi la pratique. One shot. On arrivait la veille en auto, on faisait notre formation, ça durait 2 jours, on repartait. Si un des paysans qui assistait à la formation, à un moment crucial, avait tendance un peu à s'endormir, il avait raté un truc. Et c'était dit une fois, et comme personne ne prend jamais de notes, les gens sont habitués à la culture orale, c'était difficile de tout mémoriser. Là, si on met une vidéo, que ce soit sur la riziculture, l'élevage de poulets, l'élevage de cochons, tout ce qu'on veut, les gens ils peuvent aller la regarder une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, jusqu'à l'avoir assimilé complètement. Et aussi, un des gros avantages du système, c'est, nous ça nous semble évident, mais ça n'est pas du tout à Madagascar, c'est qu'il y a une rampe de LED, donc il y a de la lumière le soir. Le jour tombe à 5h30 l'hiver, à 18h30 l'été, il y a un peu de décalage. Les gens, ils rentrent chez eux, et ils s'éclairent avec une petite bougie qui fait une flamme comme ça. Et après, ce que tous les couples font, avec une démographie galopante. Là, ils peuvent rester jusqu'à, quelquefois, à 22h, il y a encore des gens ensemble. Ils sont en train, alors quelquefois, ils regardent des films, mais quelquefois, ils sont en train de regarder une vidéo. Par exemple, dans le domaine de la santé, il y a toute la partie éducation sexuelle, donc qui s'adresse non seulement aux jeunes, mais aussi aux couples formés. Quand vous faites une session sur l'appareil génital féminin, c'est une fois. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Là, ils peuvent aller le regarder 10 fois s'ils veulent. Et puis en discuter entre eux. Vous avez un groupe de filles qui va regarder la vidéo. Ah oui, d'accord. Et puis elles en discutent entre eux. Donc le système, d'abord c'est un système de proximité, c'est dans le village, c'est pas loin de chez eux. Ils peuvent y aller quand ils veulent, ils peuvent y aller le soir, donc parce qu'il y a toute la partie pour les instituts, pour aller se former, c'est pas pris sur le temps d'enseignement. 6 gamins serrés comme des hirondelles sur les frises derrière l'écran et ils ont accès au contenu qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de bouquin. Mais là, c'est numérisé. Voilà, donc un cible, c'est ça. Alors évidemment, ça s'est enrichi au fil des années. Il y a des cibles. Maintenant, ça fait 12 ans qu'on met ça en place. On commence à avoir l'expérience de comment on le met, qu'est-ce qu'il faut exiger des gens. Et maintenant, on exige qu'ils construisent la maison et qu'ils fournissent le mobilier. C'est eux qui, on donne des normes, c'est eux qui fournissent et le bâtiment et le. Et nous, on fournit tout le reste, c'est-à-dire l'installation électrique, les ordinateurs et surtout les contenus. Alors, bien sûr, les gars de notre équipe vont régulièrement pour dire on a mis un nouveau contenu. Voilà de quoi ça parle, on vous le présente. Alors il y a bien sûr une petite équipe restreinte qui est chargée de la gestion du CIV et qui est chargée de répondre quand il y a des gens qui ne savent plus comment ça marche, ils sont là pour nous aider. Le gros avantage, c'est que ça s'adresse à des petits marmots de 4-5 ans qui savent très vite utiliser une souris. Ça s'adresse aussi à tous les enfants qui ne peuvent pas, parce que les parents n'ont pas les sous, qui ne peuvent pas aller à l'école, ils ont quand même accès. Ça s'adresse aux gens qui savent lire et écrire, et ça s'adresse aussi même aux gens qui entendent mal, ils voient les images, et les gens qui voient mal, ils entendent le son. Donc ça s'adresse vraiment à toutes les tranches de population. Pour vous donner une idée, un cible, ça coûte 10 000 euros. 10 000 euros, c'est pas le hard, c'est tout compris. La sensibilisation qui va avant, la mise en place du matériel, la fabrication des contenus, l'animation et le suivi. Alors la digitalisation, ça s'est venu avec le Covid, où les instituteurs ont été lâchés, il n'y avait plus aucune formation, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et donc on a dit, puisqu'on a des cives, on va mettre en place dans nos cives un programme complet de formation. Donc c'est un programme interactif. Alors les cives, on n'a pas Internet encore. Donc on envoie les contenus sous forme de clé USB. J'en appelle ça clé bus parce que c'est envoyé par Taxi Bruce. Donc ils s'organisent pour aller récupérer ça au du Mouron et ramener ça dans le village pour mettre à jour les documents. Un jour on aura Internet, donc on pourra vraiment faire du e-learning avec les instituteurs et dans d'autres domaines. Pour le moment on n'a pas Internet, on fonctionne avec les clés USB, mais la digitalisation c'est vraiment un programme de formation des instituteurs de A à Z, c'est un programme complet. Donc on s'est très vite aperçu qu'il y avait un problème d'eau. Il y a un problème d'eau dans les villages, mais ça on sait depuis longtemps, mais il y a aussi un problème d'eau dans les écoles. Les gamins ne peuvent pas saler les mains, il n'y a pas de latrine, et ça c'est aussi une des raisons d'abandon scolaire de la part des filles, parce que quand elles grandissent, quand il n'y a pas de latrine, elles ne veulent plus aller à l'école. Mais on a rajouté à ce programme d'adduction d'eau, on en a profité pour mettre tout un cycle de formation. Donc, on forme les instituteurs pour qu'ils fassent travailler les élèves sur la pédagogie, sur le cycle de l'eau, la sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion, des supports pour la mise en place pratique des cours, et après, on valorise l'eau qu'on récupère, l'eau grise de la lavage de main pour faire un petit jardin potager dans les écoles. Vous avez sur la partie gauche de l'image, et au centre, non c'est au centre à la gauche, il y a le puits, au centre il y a cette espèce de moulin, en fait on appelle ça le play pump, en fait les gamins, c'est comme un manège, les enfants ils jouent pendant la régulation, et en faisant tourner le manège, ça remplit le château d'eau. Et donc vous voyez en bas à droite les rampes de lavage de main, et en haut le petit schéma, donc les gamins qui font tourner la pompe, ça remplit le château d'eau, et après quand le château d'eau est plein, ils peuvent se laver les mains. Ça c'est notre budget 2023. Je vous laisse regarder les chiffres, je ne vais pas tous les commenter. Il y a toute la première partie, c'est les fondations, et toute la partie en dessous, c'est les financements publics, donc à commencer par la ville de béton. La ville de béton, la ville de Rennes, l'agence de l'eau, le département. On a eu une aide de garderie aussi, qui est jumelée à la métropole, la Bretagne, l'AFD, malheureusement on l'a pas eu en 2023, au du bassin rennais, et puis les contrats, c'est nos adhérents
merci beaucoup. On peut prendre le temps d'avoir quelques questions, évidemment, auxquelles vous pourrez répondre très certainement. Je ne sais pas si ça appelle des remarques ou questions. Monsieur Brochin.
On vous a présenté ça d'abord pour vous remercier, parce que ça fait des années que vous nous soutenez, mais aussi pour vous demander de continuer à nous soutenir, parce que pour nous c'est important. Et aussi, il y a des petits points, c'est de nous appuyer auprès de tout ce qui est agence de l'eau, du bassin rennais et tout ça. Et aussi, on en avait parlé, de voir comment on pourrait être mis en contact avec ce que nous on appelle la Silicon Valley bétonnaise, la zone de la vallée, puisque nous on est dans le digital. Si on peut tisser des liens avec ces entreprises et voir comment on peut...
Pour le mécénat. Voilà, pour
RSE, mécénat d'entreprise, comment on peut faire quelque chose. Et puis peut-être, mais ça c'est une suggestion, on a travaillé avec une mairie de la région parisienne il y a quelques années, qui une année, on fait une action choc, c'était 1 euro par habitant. Comme c'était une grosse commune, il y avait 50 000 habitants, ça a fait 50 000 euros. On a construit une école tout en bambou après le fameux tremblement de terre en Haïti, une école antisismique. En fait.
Merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques observations, remarques ou questions. François Brochin.
Oui, juste une question. Vous nous avez dit que donc, vous travaillez directement avec les populations locales. Je voulais savoir quel soutien vous aviez du gouvernement malgache, éventuellement, si vous pouviez discuter avec des représentants du gouvernement et comment ça se passait.
Alors, toutes les actions de défi, c'est toujours en lien avec des représentants de l'administration. Dans l'éducation, on est en lien très étroit avec le MEN et on a une convention, puisqu'on forme leurs instituteurs. Et on forme les chefs d'établissement, on forme les conseillers pédagogiques de la région, enfin toute la hiérarchie, si vous voulez. Donc avec le MEN, il y a toujours un lien. On a été reçu à plusieurs reprises, d'ailleurs à l'époque, par le ministre de l'Éducation, qui nous a même décerné un diplôme de reconnaissance. C'est la même chose pour l'agriculture. Il y a un lien avec les représentants du ministère de l'Agriculture. C'est pareil pour l'environnement. On est toujours en lien avec les représentants de l'État et bien sûr sur place avec les communes. Même si nous, on travaille dans des villages, les communes, c'est plus, ça présenterait plus un syndicat de communes, ça correspondrait plus à un syndicat de communes chez nous. En fait, nous, les villages, c'est plus petit que les communes. Mais il y a toujours le maire est toujours impliqué, bien sûr.
Il y a le côté institutionnel à appui, mais il y a aussi le côté pratique. Par exemple, pour l'environnement, c'est les agents de l'État qui viennent avec nous, qui forment d'abord notre équipe locale et après viennent avec nous pour faire la sensibilisation au niveau des villages. Donc c'est les deux tableaux.
Monsieur Annex.
Merci. C'est pour savoir éventuellement si vous avez des coopérations avec des ONG ou associations autres sur le territoire malgache. Est-ce qu'il y a des ONG étrangères qui collaborent avec vous? Comment vous partagez éventuellement les différentes missions? On peut imaginer qu'il n'y a pas que défi sur le territoire malgache.
Nous travaillons directement à Madagascar avec une association locale. Déjà ça, c'est une association malgache. Mais avec les autres ONG aussi, on a par exemple avec Cœur de Forêt, bon, comme son nom l'indique, ils plantent des forêts partout. On a déjà travaillé ensemble. Nous, on faisait tout ce qui est formation au niveau des classes pour tout ce qui est environnement. Et eux, ils plantent. Donc, il y a vraiment des synergies entre les ONG. Bon, je ne vous cache pas que c'est rare, en fait, parce qu'on est, solidaires, mais aussi concurrents, parce que si... Il y a une enveloppe de la mairie ici, 5 000 euros, on aimerait bien l'avoir et pas donner à l'autre association. Je suis un peu directe, mais c'est difficile. Et chacun veut travailler dans son coin.
Je rajouterai aussi le fait qu'à Madagascar, on a fait le choix d'intervenir dans des zones qui sont très isolées. Donc, dans les zones dans lesquelles on intervient... À part ponctuellement Cœur de Forêt qui intervient sur une ou deux communes où ça se superpose avec nos actions, on est les seuls. Donc là, par contre, on se coordonne avec les services de l'État.
Je rajoute un petit peu. À Béton, par contre, on est avec les autres associations. On a rendez-vous vendredi, par exemple, avec Béton Solidarité, qui voudrait faire une conférence, une soirée Béton Solidarité. Et ils nous invitent. Et donc, il y aura une séance de travail ensemble avec l'association de l'Indonésie aussi et Béton Solidarité. Donc, on aime bien travailler avec les autres.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment très intéressante. J'ai retenu sur la fin de votre prise de parole les prochaines actions à venir, notamment sur le reboisement. Et cette année, à Béton, on a une année d'action tournée autour de la valeur de l'arbre et notamment de rapprocher les habitants des fonctions et des services rendus par les arbres. Et quand j'entends ce que vous nous dites sur le fait que là-bas, il n'y a plus de bois pour cuisiner, et là, on est vraiment dans un usage immédiat du bois qu'ici, on a un peu perdu de vue ou éloigné de nous parce que nos modes de vie sont différents. J'aimerais peut-être vous proposer ou envisager que vous puissiez, à l'occasion d'une de nos actions de plantation avec les habitants, venir et décrire aussi ces situations pour des bétonniers ici qui plantent parce qu'on souhaite verdir davantage notre commune, mais qui n'oublient pas que, voilà, pas si loin que ça, du bois, on en a besoin pour manger, donc c'est aussi important de boiser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager dans une forme de collaboration prochainement, quand vous serez disponible, bien sûr, si c'est possible.
Tout à fait. J'ai vu que la carte, elle était très belle, la carte cette année, avec l'arbre de toutes les saisons. Et nous, on a même fait un slogan, chérir l'arbre. Même si, il répète toujours Christophe, oui, ce n'est pas notre cœur de métier, on ne peut pas faire l'impasse de l'environnement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau de la commune, taille des arbres et tout, on nous associe en fait avec ça. Oui, on peut envisager de travailler ensemble.
Je ne sais pas si je dois en parler parce que c'est même pas encore à l'état de projet, c'est plutôt à l'état de rêve. Mais Madagascar, c'est un pays gigantesque en fait et relativement peu peuplé. Alors c'est plus vrai ces dernières années parce que la démographie est telle que, mais il y a des zones immenses qui sont ravagées par les feux de brousse depuis des centaines d'années en fait. Et il y a une dégradation massive dans des zones où il y a une densité de population qui est très faible. Donc c'est totalement illusoire. Quand dans un village on a planté 100 hectares, on a l'impression que c'est formidable. Mais 100 hectares, c'est absolument pas significatif. C'est tout petit. Ça n'a aucun impact environnemental général. Si vous voulez. C'est bien pour le village qui est là, mais voilà. Et donc l'idée que j'ai mis, mais bon, c'est d'arriver à faire ce que font les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Russes. C'est du semis par avion. C'est-à-dire qu'on prépare les graines, on fait de l'enrobage, ça fait des petites billes grosses comme ça, enrobées dans de l'argile et du compost, et on largue ça par avion, ce qui permet d'étendre sur des zones très très vastes. On a testé avec des drones, mais un drone, ça fait quoi? Faut près d'une heure pour faire un hectare, alors qu'en avion, on met quelques secondes, quoi. Et puis si on envoie un drone, ça porte 10 kilos, un avion, ça en porte 150. Mais on travaille sur le sujet, pour le moment.
Mais on peut discuter avec la
mairie. Ce qui est intéressant, c'est justement d'amener ce regard un peu différent du rapport à l'arbre et des enjeux que vous soutenez effectivement à Madagascar par rapport à des régions comme chez nous, où c'est nécessairement très différent, mais du coup très éclairant aussi sur la valeur des actions qu'on a ici ou ce qu'on engage ailleurs aussi. C'est plus vraiment dans une forme de conférence pédagogique sur le terrain peut-être, ou lors d'une plantation, mais pas quelque chose de très formalisé, mais voilà, pouvoir un peu amener ces regards-là différents sur le rôle de l'arbre aussi, et ce qui s'y passe.
Très bien. Alors, Monsieur Piel, Martine Tomasi.
Merci. Je tiens à souligner que Défi, il y a quelques années, avait participé au Conseil du commerce équitable et que nous avions travaillé sur des documents, et vous aviez un membre de votre équipe qui avait été très, très présent. Cela dit, effectivement, l'action qui est menée est importante puisque vous agissez un peu comme des réparateurs, et des réparateurs d'un mal qui a pu être apporté par la colonisation. Les Français ont quitté Madagascar dans les années 60 et n'ont pas été les derniers à piller les biens de ce pays, dont le bois précieux. Pour le moins, je suis très sensible à ce que vous avez pu dire tout à l'heure avec ces modes de semences faits par avion. C'est justement, me semble-t-il, par rapport à ce que je peux savoir, les choses qu'il ne faudrait pas faire. Parce que si on a un peu de connaissances, et pour le moins si on a pu voir le film Résilience ces derniers temps, on s'aperçoit que revenir sur la culture locale, la favoriser, faire que les paysans vivent, et pourquoi pas aller sur une agriculture, mais une agriculture locale, aide beaucoup plus une population que ces immenses champs qu'on pourrait avoir lieu. Il suffit d'en faire référence à Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, mais Baudrillard aussi a été un excellent écrivain sur les maux de la colonisation du monde occidental. Cela dit, une question, qu'est-ce qui vous manque le plus ?
L'argent. L'argent.
Il n'y a pas autre. C'est le nerf de la guerre. Pour des tas de petites choses, par exemple, on a évoqué les salons de beauté. Je ne sais pas quelle heure il est. Vous me stoppez comme ça.
5 minutes. On prendra la question de Martine Thomas.
En fait, on a fait un travail. Enfin, moi, j'étais pas là. C'était les gars et les filles de l'équipe qui ont fait ça à la demande de Yann dans les villages, d'interroger des jeunes en disant dites-nous quel métier vous rêveriez de faire. Parce qu'il y a peut-être des violonistes d'exception, il y a peut-être des pilotes de chasse hors normes, sauf qu'ils ne seront jamais violonistes et jamais pilotes de chasse, parce que ça ne fait pas partie des soins possibles et parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Mais on voulait simplement qu'ils expriment qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme métier, ou qu'est-ce qu'ils rêveraient de faire comme métier. Et il y a une fille qui a dit, moi j'aimerais avoir un salon de beauté. Alors ça a fait sourire beaucoup de gens. Et quand les gars ont ramené ça, j'ai dit génial. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'avant d'être belle, il faut être propre. Donc, en fait, le salon de... Et puis, les Français ont des bien placés. Hein. Les 5 plus grosses boîtes du CAC 40, c'est que du luxe. Donc, et Dieu sait si ça fait tourner des milliards. Mais indépendamment de cette dimension économique, un salon de beauté, d'abord, j'estime que ce n'est pas parce qu'on est paysanne du fin fond de Madagascar qu'on n'a pas le droit d'avoir envie d'être belle, que c'est pas très compliqué de fabriquer son propre maquillage et ses propres produits de beauté. Il y a toutes les matières premières nécessaires sur place. Et surtout, à travers le salon de beauté, c'est toute une éducation. Donc, l'idée de développer des salons de beauté, c'est toute une hygiène, c'est tout un... Voilà. Et si les filles sont propres, elles pourront dire aux garçons, va te laver. Voilà. Donc, le salon de beauté, ça a fait rire au départ quand la fille a exprimé ça, alors qu'en fait, c'est une mine d'or. Mais on n'a pas eu les fonds, on s'est adressé à la Fondation L'Oréal, ils n'ont pas donné suite. Pourtant, c'est des petits budgets, hein. C'est rien du tout, un salon de beauté.
Pas L'Oréal.
Oui, salons de beauté.
Les salons de beauté, c'est des petits budgets. Martine Thomasi.
Bien, j'ai deux réactions sur deux des sujets. D'abord, bravo. Vraiment, c'est époustouflant, l'importance de ce que vous faites. Ça nous remet bien en place. Comme quoi, on peut vraiment faire des choses extraordinaires avec beaucoup de belle volonté. Et puis, d'aider les gens par eux-mêmes. Ça me semble aussi extrêmement important. Là, vous venez d'évoquer les salons de beauté, donc les filles, les femmes, comme vous le dites, il y a beaucoup de choses qui passent par elles. Vous nous parlez d'une démographie galopante. Il n'y a pas l'accès à la contraception ou ça n'est pas accepté dans la culture ? Et sur le plan médical, comment vous êtes aidée, justement ? Parce qu'on peut parler de contraception si vous parlez... de tout cela et que vous voyez surtout les femmes, est-ce que c'est possible de permettre que des adolescentes ne soient plus mamans aussi jeunes comme ça l'a été ? Est-ce que ça l'est toujours dans les filles ?
Le problème du contrôle des naissances, c'est un problème essentiel, mais qui était absolument pas pris en compte par l'État, qui commence un petit peu à être pris en compte par l'État. Mais c'est un problème très compliqué de limiter les naissances. Pour nous, l'important dans le contrôle des naissances et donc de la connaissance des femmes et des hommes de leur corps pour pouvoir gérer cette question, c'est d'abord éviter les grossesses précoces. Là encore, l'autre jour, on a une gamine de 13 ans, enceinte avec des jumeaux, compliqué, 6 heures de marche pour aller au dispensaire, voilà. Donc des gamines enceintes à 13 ans, c'est un peu juste. Ouais. Le seul moyen de lutter contre les, enfin de limiter les naissances, c'est l'avortement, et dans des conditions que je ne vous décris pas. Ouais. Donc il y a une question de dignité humaine. Donc après, le contrôle des naissances, c'est-à-dire la limitation de l'augmentation de la démographie, ça vient après tout ça. Il y a aussi une question d'harmonie au sein des couples. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle a déjà 8 enfants, elle dit, chaque fois que mon mari s'approche de moi, boum, je tombe enceinte, je veux plus qu'il me touche. Voilà. Donc ça crée des tensions. Donc il y a toutes ces problématiques. Et en fait, petite parenthèse, si on prend la Corée du Sud, en 1960, elle a le même PIB que Madagascar. On est au même niveau. Aujourd'hui, la Corée du Sud, ils nous talonnent. Mais quand on regarde les courbes de natalité, à Madagascar, elle a fait ça, c'est-à-dire qu'en 60, on était à 2,3, aujourd'hui, on est à 2,6. La Corée, ils sont à 0,4. Et l'effort énorme qu'a fait la Chine avec la politique de l'enfant unique, en fait, quand on travaille sur la démographie, c'est 30 ans après qu'on en regarde, il y a 30 ans. Voilà. Et l'explosion économique de la Chine n'est certainement pas exclusivement liée à la réduction de la natalité, mais ça a joué de façon... indiscutable. Quand on regarde le PIB de Madagascar, il augmente tous les ans. Sauf que le nombre de bouches à nourrir augmente beaucoup plus vite. Donc forcément, les gens s'appauvrissent. Le pays, globalement, s'enrichit, mais individuellement, les gens s'appauvrissent.
D'accord. Et sinon, je voulais...
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la contraception.
Mais... Et le deuxième sujet, c'était ceux des arbres. Parce que c'est juste une idée. Oui. Parce que depuis plusieurs années, j'offre à chacun de mes petits-enfants qui arrivent un arbre dans une forêt dévastée pour repeupler ces forêts. Je me dis, bien sûr que je choisis des forêts bretonnes, mais est-ce que c'est juste une idée qui me vient comme ça, puisque c'est quelque chose que je pratique et que tout le monde aime beaucoup? Pourquoi ne pas offrir un arbre, on ne pourrait pas essayer d'offrir un arbre pour les enfants de Madagascar, faire de la même façon, de faire qu'un petit Français devienne propriétaire d'un arbre à Madagascar et après il pourra l'offrir à un petit camarade de Madagascar. C'est juste une idée. Hein.
Nous allons noter votre idée, hein. Pourquoi pas. On va en penser. Et de toute façon, on va rassembler d'autres idées aussi avec la proposition de travailler avec la mairie. Toutes les initiatives sont bonnes, en fait, parce que c'est très important, l'environnement. Maintenant.
Merci. Moi, je voulais vous remercier beaucoup pour cette présentation. Et bon, je vous invite toutes et tous aussi à participer lorsque vous avez des animations. Vous en avez eu aussi des temps forts dans la ville, et donc d'aller voir et d'aller échanger avec vous, mais aussi avec les membres de votre association. On n'a pas parlé du nombre de membres, du nombre de personnes qui travaillent avec vous, mais il y a un certain nombre. Vous invitez aussi à l'événement que vous ferez conjointement avec Béton Solidarité. Donc il y a des tas de rencontres. Et pour les uns et les autres qui ont envie d'agir, travailler directement avec cette association. Dans tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et voilà, je pense que chacune des personnes autour de la table ne pourra plus dire qu'est-ce que c'est que Défi. On aura eu la présentation de ce que vous faites principalement à Madagascar, mais pas seulement à Madagascar. Merci beaucoup bonne soirée.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Nous allons poursuivre notre ordre du jour par le point 2. Donc, j'ai omis d'accueillir, c'est vrai, Jean-Baptiste Albanaise. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste Albanaise est devenu conseiller municipal à la suite de la démission de Jean-Luc Voléon, que je remercie aussi, Jean-Luc, pour son investissement, son très fort investissement pendant ces 16 années. Et donc, toujours disponible, toujours bénévole, toujours volontaire. Et voilà, je le remercie et j'aurai l'occasion aussi de le remercier personnellement. Donc, bienvenue à Jean-Baptiste Albanaise. Puisque je suis dans les présentations, je profite aussi de ce moment pour vous présenter Madame Justine Delaunay, qui est la secrétaire générale des élus, donc en remplacement de Marion Radduff, qui avait quitté mi-octobre. Donc, bienvenue à Justine Delaunay, qui est votre interlocutrice. Donc, le point 2, l'Association des Jardins de Lille, donc à la suite de la démission de Jean-Luc Voléon, qui siégeait, qui était représentant de la mairie à l'association Les Jardins de Lille avec Timothée Femme. Et donc, à la suite de cette démission, il vous est proposé de désigner Séverine Massé au sein de l'association. Alors, y a-t-il des questions ou remarques? Alors, que je prenne, il y aura combien de personnes? Nicolas Jaouen, Loïc Allium.
Rien à voir avec le point 2, pas totalement en tout cas. J'ai levé la main juste avant, mais vous n'avez pas vu. Béatrice, qui n'est pas là ce soir, avait un mot pour Jean-Luc, qu'elle m'a chargé de lire à sa place. Et du coup, vu que ça parle du départ, du remplacement de Jean-Luc, j'en profite. Elle voulait prendre la parole quelques instants du coup, pour remercier un collègue, un ami, Jean-Luc Voléon, avec qui a démissionné à contre-cœur le 1er janvier 2024. Jean-Luc était élu depuis 2008. J'ai eu le plaisir de partager 3 mandats avec lui et je tenais à le remercier pour ses engagements et sa connaissance sans faille de la commune, notamment son implication dans les salons du jouet ancien, de collection, du triathlon, BJBN et bien d'autres encore. Et j'en profite pour dire qu'on se joint à elle, effectivement, pour remercier Jean-Luc pour son travail.
Monsieur Allium.
Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, pendant de nombreuses années, notre collègue Jean-Luc Voléon a su apporter une passion et un grand dévouement en qualité de conseiller municipal. Merci pour son engagement infatigable. Il a contribué de manière significative à l'amélioration de notre ville en tant que collègue élu. Jean-Luc a su créer un environnement de travail harmonieux, constructif, une capacité à faire preuve d'empathie. Il laisse une empreinte positive sur chacun de nous. Aujourd'hui, en exprimant ma sincère gratitude, je reconnais que Jean-Luc a incarné l'esprit de service public. Merci Jean-Luc pour tout ce qu'il a fait pour servir sa ville. Merci Madame la maire.
Merci. Pour ces mots. Donc, je mets aux voix la délibération donc, pour désigner Séverine Massé à l'association Les Jardins de Lille. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, 11 abstentions. Merci. Délibération 3 porte sur le comice agricole. Donc, idem, suite à la démission de M. Voléon, il vous est proposé de désigner Sabine Rouanet pour siéger au sein du comice agricole avec à ses côtés Alice Landais et Séverine Massé. Donc, y a-t-il des remarques? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 11 abstentions. Je vous remercie. Le point 4 porte sur le renouvellement des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Donc c'est très normé, hein, les membres de la commission de contrôle sont nommés par arrêté du préfet. La commission de contrôle pour les communes de 1000 habitants et plus est composée de 5 conseillers municipaux. Donc 3 conseillers municipaux de la liste majoritaire pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, donc majoritaire à l'issue du scrutin de 2020, 2 conseillers municipaux de la liste minoritaire, et donc les membres qui feront partie de cette commission et volontaires pour participer aux travaux sont les suivants. Martine Tomasi, avec comme suppléante Séverine Massé, Loïc Allium, avec comme suppléant Erwan Sauvaget, Jean-Yves Loury, avec comme suppléant Morvan Legentil, au titre du groupe majoritaire et au titre par rapport au scrutin de 2020, et donc René Piel comme suppléant au titre suppléant Alain Bidot, Thierry Annex avec comme suppléante Stéphanie Lapi. Voilà ce qu'il vous est proposé pour les membres de la commission de contrôle des listes électorales nommée par le préfet. Donc, y a-t-il des questions, remarques? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci. Concernant la commission municipale, les commissions municipales, donc la modification des représentants suite à la démission de M. Voléon. Et donc, il vous est mis dans la délibération les membres de la commission aménagement du territoire, développement durable, mobilité, ainsi que ceux de patrimoine bâti infrastructure, ceux de cohésion sociale, culture association sport, petite enfance affaires jeunesse scolaire, affaires scolaires jeunesse et finances. Donc voilà, les noms sont dans la délibération. Y a-t-il des questions, remarques? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Pour le CCAS, donc, on avait présenté une liste de 8 noms lors de la dernière élection pour les administrateurs du CCAS de béton le 14 décembre 2021. Donc, il vous est proposé là de reprendre les mêmes personnes et de proposer la candidature de Sylvain Illion à la place de Jean-Luc Voléon, ce qui fait comme liste Frédéric Mignon, Jean-Yves Loury, Sylvain Illion, Martine Tomasi, Timothée Femme, Soisy Clabou-Mourin, Leïla Farouge et René Piel. Voilà. Y a-t-il des questions, remarques? Oui, oui, j'ai vu. Monsieur Annex.
Merci, Madame la Maire. Une intervention rapide pour faire comme vous et certains collègues de votre majorité. Un petit mot pour Jean-Luc. Donc, Madame la Maire, chers collègues, ce dernier point sur les commissions municipales nous donne l'occasion de dire quelques mots pour et à l'adresse désormais de notre ancien collègue Jean-Luc Voléon. Les plus anciens des élus de béton responsables et solidaires, plus particulièrement, mais aussi les plus récents, souhaitent remercier chaleureusement Jean-Luc pour son engagement depuis 2008, de ses nombreuses années au service des bétonnais. L'aventure municipale est une aventure d'équipe, toujours là pour aider, donner un coup de main, quelquefois dans des moments difficiles. Ces différentes et multiples connaissances locales ont été, nous le rappelons, grandement utiles dans des réalisations communales passées. Pardon. Merci Jean-Luc et à bientôt pour d'autres occasions. Merci Madame la Maire.
Merci. Donc, je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci. Donc, le point 7 porte sur le débat d'orientation budgétaire. Et donc, avant la présentation du budget 2024 de la collectivité, le 21 février au sein de cette Assemblée, nous devons débattre sur le rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport d'orientation budgétaire a été présenté en commission finances le 11 janvier 2024 et a été joint en annexe de la convocation de ce conseil municipal. Donc, il présente la rétrospective de 2019 à 2022 et la prospective de 2023 à 2027 en matière budgétaire pour la ville de Béton. Et donc, je laisse Amine Amar nous présenter ce rapport d'orientation budgétaire.
Merci, Madame la Maire. Je voudrais, avant de commencer à présenter le DOB, remercier très chaleureusement et très sincèrement les services, et notamment celui dont Irène Javaudin assure la responsabilité, qui a beaucoup œuvré pour l'élaboration de ce rapport. Mais je voudrais aussi en profiter pour remercier tous les services, parce que chacun des services, cette année, comme les autres années, mais peut-être encore un peu plus que les autres années, tous les services ont été mobilisés pour assurer, dans la partie prospective, les équilibres que nous allons vous présenter, et ils l'ont fait sous la houlette des collègues adjoints, conseillers délégués, responsables d'une partie de ces budgets, et remercier enfin l'ensemble des élus de la majorité qui ont été associés aux discussions sur ce rapport d'orientation budgétaire, au moins à deux occasions au cours de ce que l'on appelle des réunions de liste. Voilà, c'est donc le résultat de ce travail collectif qui est présenté ce soir. Peut-être quelques mots avant de lancer le diaporama sur le contexte dans lequel s'inscrit ce rapport d'orientation budgétaire, le contexte international d'abord. 2024 s'annonce une fois de plus comme une année d'incertitude, d'abord sur le plan géopolitique, et évidemment on a le sentiment a priori que les situations géopolitiques sont loin de concerner le petit et le pauvre budget de béton, mais il n'en est rien, chacune et chacun d'entre nous a bien en tête l'inflation que nous avons subie, notamment sur les produits énergétiques, et le contexte géopolitique y est évidemment pour beaucoup. Au-delà du contexte géopolitique, il y a le contexte économique international et européen qui va jouer, et là encore l'incertitude est grande puisque ce que l'on anticipe, pas nous mais le consensus économique anticipe une forme de croissance très molle au niveau international et au niveau européen. Au niveau de notre pays, en France, la croissance est aujourd'hui estimée à 0,8% en 2024, c'est-à-dire pas plus dynamique que celle qu'on a connue en 2023. Peut-être la nouvelle la plus réjouissante, c'est que l'inflation serait en passe d'être maîtrisée, et on imagine qu'elle ne devrait pas dépasser 2,4% en 2024, mais encore une fois, cette inflation va être aussi dépendante du contexte international tel que je viens de le décrire. Deux mots également peut-être sur la situation locale, avec des chiffres qui me sont parvenus hier et qui mettent à jour la présentation qui a été faite dans le document qui vous a été distribué, et notamment sur quelques éléments de comparaison à l'intérieur de Rennes Métropole. Sur, par exemple, les dépenses de fonctionnement, en 2022, dans la ville de Béton, nous avons eu un niveau de dépenses de fonctionnement de 908 euros par habitant, quand il était de 1070 euros pour l'ensemble de la métropole et de 1280 euros pour les communes de 10 à 20 000 habitants. Ça permet de situer le niveau de notre dépense par rapport à nos voisins et par rapport à la strate au national. Et ce que nous constatons depuis quelques années, c'est-à-dire que nous avons un niveau de dépense globale de fonctionnement relativement plus faible que la moyenne de la métropole est assez nettement plus faible que la moyenne de la strate, se confirme. Sur le plan des produits, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que sur le foncier bâti, nous percevons aujourd'hui, en 2022, 408 euros par habitant, quand la métropole, en moyenne, la perception est de 512 euros par habitant. Voilà des chiffres qui, je crois, méritent d'être diffusé et mis à jour. Alors, on va pouvoir désormais, si je retrouve ma page, mais je la retrouve, passer au diaporama et peut-être commencer par l'évolution des dépenses de fonctionnement. Et on vous a mis une planche où vous voyez et en rétrospective et en prospective ces évolutions. Sur la partie rétrospective, il y a une chose à constater, c'est que entre les années 2020 et 2023, les dépenses de fonctionnement ont cru de manière très très importante et notamment entre 2020 et 2022 sous le poids du rattrapage des années Covid ou de l'année et demie Covid et entre 2022-2023 nous avons là un effet de l'inflation notamment qui explique pour une bonne partie cette évolution forte plus 5,10% des dépenses de fonctionnement. Et si nous regardons la partie plus prospective, nous exprimons à travers cette partie prospective deux choses. La première, c'est que nous anticipons un ralentissement de l'inflation dans les années qui viennent, et ensuite une volonté de maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement pour pouvoir préserver au minimum une marge d'épargne nette. Sur les dépenses à venir, la charge de personnel va croître en 2024 d'environ 220 000 euros et, ou de 3%. Et on verra tout à l'heure, il y a une diapositive particulière sur la charge de personnel, les raisons qui conduisent à imaginer une augmentation de cet ordre-là. Et nous verrons qu'elles trouvent leur origine dans le fait que l'État a pris des mesures générales qu'il faut que nous assumions pour la masse salariale, mais que l'État a oublié de nous compenser. Voilà, mais on va voir ça dans le détail. Sur le chapitre charges à caractère général, qui a connu une hausse importante en 2023 du fait de l'augmentation des prix de l'énergie, en 2024, nous anticipons le fait qu'elles n'augmenteront pas et nous nous sommes organisés pour qu'il en soit ainsi. Et c'est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le travail, notamment avec les élus et les services, a été fait pour contenir le chapitre 011, charges à caractère général, à zéro évolution entre 2023 et 2024. Sur le chapitre « Autres charges de gestion courante », on a eu une augmentation importante qui est liée notamment à une subvention exceptionnelle que l'on a octroyée au CCAS et dont nous avons parlé à l'occasion du conseil municipal dernier. Voilà, sur l'évolution des recettes de fonctionnement, je voudrais insister au-delà de ce que vous avez pu lire dans le rapport qui vous a été transmis sur deux années, le passage de 2022 à 2023 et le passage de 2023 à 2024. Nos recettes ont évidemment, comme vous le constatez, beaucoup augmenté entre 2022 et 2023 pour une raison finalement assez simple, c'est que nous avons bénéficié en 2023 d'une recette exceptionnelle qui a intitulé filet de sécurité de près d'un million d'euros. C'était 973 000 euros de mémoire. Cette recette à elle seule justifie une grande partie des 14,79% d'augmentation. Je le disais, il s'agit d'une recette exceptionnelle et donc elle a exceptionnellement permis une augmentation de ses recettes entre 2022 et 2023, mais nous ne l'aurons plus en 2024, et donc exceptionnellement également, elle va justifier ou expliquer la baisse des recettes de fonctionnement que nous observons ou que nous observerons entre 2023 et 2024, moins 6%. Et les années suivantes sont des années où on a des recettes qui augmentent de manière, disons, de manière modeste, pour une raison assez simple, c'est que pour les années 2025-2026, il y a une fiscalité qui restera comme elle est aujourd'hui et il y a une augmentation des dotations qui sera relativement faible et donc on va observer une faible évolution des recettes de fonctionnement. Et donc la diapositive suivante explique comment va évoluer l'épargne à partir de l'évolution des produits et des charges, comment elle a évolué rétrospectivement et comment elle va évoluer jusqu'en 2027. Et vous le voyez, face à une baisse des recettes de fonctionnement de 6% et une augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,95%, nous avons en 2024 un resserrement entre les produits de fonctionnement et les charges de fonctionnement, ce qui va générer une épargne historiquement faible, puisqu'elle est anticipée à 132 000 euros en 2024. On peut désormais passer à la masse salariale. Alors, la masse salariale a diminué de à peu près 39 000 euros ou 40 000 euros en 2023 par rapport à 2022. Là aussi, c'est un phénomène tout à fait conjoncturel. C'est pas la tendance naturelle d'une masse salariale de diminuer, mais elle a diminué notamment, mais pas seulement, sous l'effet du passage de 4 jours et demi à 4 jours. Elle devrait désormais ne plus diminuer, puisqu'elle passerait de 7 080 000 euros en 2023 à 7 300 000 en 2024. Alors, ce différentiel, c'est très exactement l'effet de mesures essentiellement de l'État que nous subissons sans contrepartie. C'est les 5 points d'indice pour tous les agents. C'est le relèvement du traitement minimum en mai 2023 avec un impact sur toute l'année 2024. Et c'est également, dans les mesures un peu mécaniques, ce que l'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire que les personnels de la ville de Béton sont inscrits dans une logique de carrière et leur carrière évolue d'année en année et c'est d'ailleurs la moindre des choses. Ils ont le droit à des augmentations au fil de leur carrière et ces augmentations, elles doivent être prises en compte dans le calcul de la masse salariale. Et puis, il y a un dernier élément qui explique cette hausse, c'est que nous avons réservé une enveloppe à une discussion qui a lieu actuellement entre la maire, la directrice générale et les organisations représentatives des personnels sur éventuellement la refonte au moins partielle du régime indemnitaire qui l'aurait servi. Voilà les éléments s'agissant de la masse salariale. Sur les dotations, petite nouveauté cette année par rapport à l'année, aux années précédentes, c'est que nous avons souhaité faire apparaître une dotation importante en valeur absolue et qui ne figurait pas, c'est la dotation de solidarité communautaire, la DSC, dont vous voyez qu'elle est au minimum, qu'elle progresse assez peu, voire même que sur la période 2023-2027, elle tend à se réduire. Voilà. Donc c'était important quand on regarde l'ensemble des dotations dont nous bénéficions, de faire figurer celle-là qui n'y figurait pas, pour une raison assez simple, c'est qu'on faisait figurer les dotations de l'État et j'ai souhaité qu'on fasse figurer la dotation de la métropole. Voilà. Les dotations de l'État, d'ailleurs, vous le constaterez, soit n'augmentent pas, soit augmentent vraiment de façon quasi marginale dans la période 2023-2027. Je pense notamment à la dotation forfaitaire qui est en valeur absolue la deuxième après la DSC et qui va varier entre 1,094 000 en 2023 à 1,116 000 en 2027. En pourcentage, ça doit faire assez peu. L'évolution des recettes fiscales, pas de grands commentaires à faire sur la partie rétrospective. Vous vous souvenez qu'entre 2022 et 2023, il y a une revalorisation des bases par l'État de la taxe foncière qui était à 7,01% dans mon souvenir, et plus une augmentation des bases physiques, plus quelques autres recettes supplémentaires qui nous ont permis d'avoir un bond dans les recettes fiscales de 8,64%. Cette année 2024, nous prévoyons une augmentation du taux de la taxe foncière de 7%, ce qui devrait nous conduire à avoir une augmentation totale de nos recettes fiscales de 11,04%. Alors, quand je dis que nous envisageons cette revalorisation de 7% et que vous voyez plus 11,04%, c'est parce que nous intégrons également, comme nous l'avons fait pour les autres années, la revalorisation attendue et qui a été d'ailleurs précisée en loi de finances des bases. Et voilà. Alors, je ne sais plus exactement. 3,9% d'augmentation des bases. Et ensuite, dans les années suivantes, nous n'avons pas d'augmentation de la fiscalité prévue en 2025 et en 2026. Et on a une progression à la fois liée à l'inflation, liée à l'évolution de nos bases physiques, c'est-à-dire les nouvelles habitations qui entrent dans le le calcul de nos bases, et donc on a des taux d'évolution qui vont de 3,82% à 2,85%. Sur l'évolution des volumes d'investissement, nous sommes là encore dans une année où nous devrions dépenser autour de 2 800 000 euros en investissement, ce qui est plutôt un niveau correct d'investissement. Les 261 000 euros, c'est évidemment le fonds de concours versé à la métropole. Et ces 261 000 euros, enfin, si on s'est permis d'être aussi précis sur ce chiffre, c'est que c'est un chiffre qui nous a été fourni par la métropole sur la base des dépenses qu'ils ont engagées et payées en 2023. On est sur une mécanique N-1. On rembourse ce qui a été dépensé à N-1 et on rembourse à hauteur de 16 et quelques pourcents dans mon souvenir. Voilà. Ensuite, on a une année 2025 où c'est comme ça le cycle des investissements, où on devrait avoir une dépense d'investissement finalement assez faible, autour d'1,4 million, avant de la voir remonter en 2026 autour de 3,7 million. Voilà. Et on va regarder de façon un peu plus détaillée les choses sur le plan pluriannuel d'investissement. Qui traduit toutes les opérations qui sont en cours ou qui sont appelées à démarrer. S'agissant de l'année qui nous intéresse dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est-à-dire l'année 2024, nous voyons que nous avons des crédits dits récurrents qui vont permettre de réaliser des investissements, des réparations, de l'entretien de nos bâtiments avec une enveloppe de 600 000 euros qui en réalité devrait être un peu supérieure à 600 000 euros puisque nous avons décidé que une partie d'un éventuel résultat de 2023 serait consacrée à cette enveloppe en abondement des 600 000 euros parce que les besoins sont importants et que ce seront des sommes supplémentaires bienvenues. La rénovation du prieuré, nous sommes encore dans des phases d'études et c'est la raison pour laquelle vous voyez inscrit un montant de 200 000 euros. En revanche, le groupe scolaire maternel, l'Aéronaut, nous sommes en plein travaux et cette année devrait être une année importante de travaux sur ce groupe scolaire et nous avons prévu de dépenser 1 600 000 euros. Et peut-être ici dire que c'est un projet dont le financement a été largement partagé par d'autres, notamment l'État qui a et la métropole qui ont versé des subventions, je crois, au total, sans doute à une hauteur supérieure à 30% du coût total du projet. La cuisine centrale, c'est un sujet qui commence, si j'ose dire, et que nous allons certainement revoir dans les années qui viennent. Mais cette année, nous consacrons 100 000 euros au sol et plafond, si je crois que c'était ça la perspective, mais aussi à regarder ce qu'il y a à faire pour que cet outil, qui est un outil essentiel pour nous et prioritaire, puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles et de la façon la plus respectueuse possible des conditions ou des exigences environnementales notamment. Et c'est ainsi que nous allons regarder dans quelle mesure cette structure à laquelle nous tenons beaucoup peut être alimentée en énergie de façon un peu plus autonome qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais les études sont en cours de ce point de vue. Voilà, peut-être encore un mot sur les équipements sportifs de plein air qui sont inscrits ici à hauteur de 350 000 euros. J'en dis un mot parce qu'ils n'étaient pas là l'an dernier, me semble-t-il, et que c'est un besoin qui est exprimé depuis fort longtemps et qui consisterait à avoir... Je ne sais jamais comment le dire, quelque chose de l'ordre du skatepark, mais pas forcément du skate. Enfin, ce serait un de l'ordre du skatepark. Voilà, voilà. Hein, je vais le dire comme ça. Mais chacune et chacun aura compris que les équipements sportifs ne sont pas la partie où je suis le plus fort. Voilà. Voilà. Et puis, un dernier élément sur notre encours de dette et notre capacité de désendettement. Alors là aussi, les parties rétrospectives sont toujours très intéressantes, mais ce qui l'est encore davantage, c'est peut-être de se tourner vers l'avenir sur ces questions d'endettement et de désendettement. Et vous voyez que nous avons à la fois en capital et en intérêt un endettement qui croît et une capacité de désendettement. Évidemment, le nombre d'années, le ratio nombre d'années pour se désendetter augmente pour en fin de période en 2027 à avoisiner 13 années. Et c'est aussi cette façon de regarder et d'analyser le financement de nos dépenses d'investissement qui nous a conduit cette année à privilégier une solution où nous avons recours à une augmentation des taux. C'est pour ne pas dégrader, pour ne pas aller au-delà de 13 ans de capacité de désendettement que nous avons eu ce recours parce que, évidemment, nous n'avons pas du tout l'intention de complètement emboliser la capacité d'endettement de la ville pour les années au-delà de 2027. Et c'est une réflexion de long cours et de long terme et il nous faut donc reconstituer dès que nous le pourrons une part toujours plus importante d'épargne nette et cette épargne nette elle s'obtient à partir de dégagement d'une marge sur la section de fonctionnement. Or, la section de fonctionnement est aujourd'hui une section de fonctionnement qui est très contrainte et le recours à l'impôt va nous permettre d'amoindrir cette contrainte et nous ne touchons au taux d'impôt toujours, pour paraphraser Portalis, que d'une main tremblante. Nous ne le faisons jamais par facilité et si nous décidons cette année d'augmenter le taux d'impôt, c'est bien parce que nous avons fait tous les efforts que nous pouvions sur la partie dépenses de fonctionnement. Et preuve en est, c'est que hors masse salariale, nous avons reconduit le budget 2023 pour 2024 sur le chapitre 011. Voilà, Madame la maire, ce que je pouvais dire, et je suis évidemment à la disposition, s'il y en a, des questions qui sont posées.
Merci, Monsieur Amar. Et donc, nous allons prendre un petit temps pour le débat sur ce rapport d'orientation budgétaire, sur des remarques, questions, observations. Et je vais prendre le nom des personnes qui souhaiteraient intervenir. Donc, voilà. Qui c'est qui interviendrait ? Nicolas, donc Thierry Annex, Alain Bidot, Nicolas Jaouen, Erwan, hein? Oui, mais Erwan, Thierry, ok, Monsieur Annex.
Merci, Madame la maire. Alors, exercice habituel et obligatoire que ce débat d'orientation budgétaire. Ah oui, je vais lire mon intervention. Donc, je vais essayer de ne pas la annonner, comme disait l'ancien conseiller municipal délégué aux finances lors d'un débat d'orientation budgétaire passé. Et je fais la remarque que nos écrits sont bien utiles quelquefois pour faire des procès-verbaux de ce conseil municipal. Donc, exercice habituel et obligatoire que ce débat d'orientation budgétaire. Nous ne rappellerons pas les contextes tragiques et inquiétants internationaux, comme vous avez pu le rappeler, M. Amar, et la situation nationale également préoccupante à plus d'un titre. D'année en année, on assiste à un désengagement régulier de l'État, qui par ailleurs, de par ses décisions, engage des augmentations de charges pour les collectivités. Le point d'indice, par exemple, Amin Amar en faisait référence tout à l'heure. On ne peut que constater également une nouvelle fois l'erreur politique d'Emmanuel Macron, qu'a été la suppression de la taxe d'habitation. N'en déplaise à notre collègue Quentin Jagorel, absent ce soir, qui y voyait du pouvoir d'achat rendu aux contribuables. Vous nous avez, les années passées, habitués à votre gestion, sans grande vision et ambition. Sans nul doute, le budget que vous nous présenterez dans les semaines à venir aura, comme à son habitude, des déclinaisons de gestionnaires, de ceux qui accompagnent, sans répondre aux besoins et transitions nécessaires, mais qui jamais n'anticipent, mais surtout qui pensent seuls en vase clos, sans perspective globale. Les personnes qui vous entourent n'ont pu, hélas, corriger les erreurs dispendieuses de votre prédécesseur et mentor. L'adjoint aux finances d'alors, ayant des fonctions dans ses fonctions d'éclairer la majorité de l'époque, n'aura sans doute rien vu venir, selon l'expression populaire. À 2 années des échéances électorales, un rappel de votre politique budgétaire nous semble intéressant. Recherche, recette, désespérément. Que s'est-il passé ? Sur le plan national, une inflation alimentaire, une inflation énergétique, et bientôt en février, encore une augmentation entre 8 et 10% annoncée du tarif de l'électricité, l'électricité qui a augmenté de 40% depuis 2022. Une augmentation des franchises médicales, une explosion des mutuelles de santé, et j'en passe. Dans ce contexte national, vous avez décidé, Madame la maire, avec votre majorité, une augmentation du taux de la taxe foncière en 2021. Les bétonnés ont connu une augmentation des bases de la taxe foncière en 2023, une augmentation dont vous avez alerté sur les bases. La suppression des 4,5 jours dans les écoles publiques, source d'économie pour la ville, mais qui entraîne des charges supplémentaires pour les familles. Des augmentations successives et non solidaires des tarifs municipaux. Nous pouvons rajouter localement une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que nous avions également annoncée. Vous nous proposez ce soir, Madame la maire et chers collègues de la majorité, une augmentation de plus 7% de la taxe foncière, en renonçant toujours à étudier à taxer les résidences secondaires dont on a appris le nombre conséquent lors de la dernière commission finances, qui permettrait une nécessaire solidarité. Avec cette gestion, je vous cite, entre guillemets, en bonne mère de famille, les bétonnets sont gâtés. Et après cela, que constatons-nous ? Une capacité de désendettement qui augmente de façon inquiétante. Lors du débat d'orientation budgétaire de 2020, il y avait une projection pour 2024 de 8,4 années. Et lors du débat d'orientation budgétaire de 2022, vous passiez de 8,4 années à 9,2 années. Triste constat, 2024, il est de 11,2 années. Rappelons-nous les propos de notre collègue Quentin Jaguerel, qui évoquait lors du DOB 2022 et de notre collègue Amin Amar en janvier 2023, un seuil d'alerte entre 11 et 12 ans. Cette situation vient se heurter sur vos propos, Madame la maire, lors du débat d'orientation budgétaire de 2020, où vous évoquiez un désendettement qui est sain à 9 années. Alors, que dire de vos perspectives pour 2027 et de ces 13 années nécessaires? Nous vous invitons humblement, Madame la maire, à relire nos interventions lors des débats d'orientation budgétaire précédents, où nous constations avec surprise l'état délabré de nos finances dès le début de notre mandature. Nous avions souhaité alors voir se mettre en place une dynamique constructive, contributive et en toute transparence avec la population. Des projets avec les accompagnements d'emprunt qui, à l'époque, nous le rappelons, étaient avec des taux significativement plus bas qu'aujourd'hui. Et nous vous appelions également à réfléchir à la poursuite et en les amplifiant aux sources d'économies de recettes nouvelles. Nous avions reçu en retour mépris et suffisance. Pour ne pas faire long, j'avais cité quelques propos, donc je ne les cite pas, mais si vous voulez, je pourrais le faire. En conclusion, avec 3 augmentations d'impôts de la taxe foncière, malgré des aides de 800 000 euros dans le fonds, dont le fonds vert, des subventions importantes pour la piste d'athlétisme, des fonds de concours de Rennes Métropole, des recettes des ventes des maisons, le filet de sécurité de près d'un million d'euros, malgré tout cela, et comme cela a été évoqué lors de la commission finances dernière, l'état des finances de la ville de Béton ne mériterait pas un triple A des agences de notation, agences de notation qui ne sont pas notre tasse de thé par ailleurs. On peut remarquer que le report de la trémie, à une date pas encore définie, apparaît alors comme une aubaine. Pour finir, ce rapport d'orientation budgétaire engage des perspectives pour 3 années, nous amenant en 2027. Permettez-nous un conseil, que vos décisions n'entravent pas vos probables successeurs dans une future gestion municipale. Merci, Madame la maire et chers collègues.
Monsieur Bideau.
Merci, Madame la maire. Donc, dans le cadre de ce débat, nous souhaitions également revenir sur un certain nombre de projets qui auraient pu voir le jour depuis l'arrivée de votre majorité ou qui pourraient être planifiés pour améliorer la situation générale de la ville. Tout d'abord, nous disons que même si un certain nombre de bonnes surprises financières ont permis de renflouer nos caisses, c'est tout de même faire preuve d'un excès d'optimisme de dire que Béton a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au filet de sécurité, alors qu'il n'y a que des critères indicatifs d'une mauvaise santé financière. Ensuite, les budgets ont été votés sans tenir compte de ce filet. Nous avions donc initialement prévu un emprunt et un certain volume de dettes. Eh bien, même en utilisant le filet entièrement au désendettement, les comptes de la ville restent au rouge, comme on vient de le voir. Alors, cela vous permet d'expliquer aujourd'hui une absence de financement de projets directement utile à la population et qui serait décidé par elle. Nous aurions proposé un meilleur financement des projets montés par les bétonnais et bétonnaises volontaires, ainsi qu'un budget participatif plus significatif, tout cela à la hauteur de l'investissement de la population. Nul doute que nous aurions mis en place des panneaux photovoltaïques, par exemple, de façon régulière et large, en autoconsommation, pour diminuer la facture électrique de la ville, mais également celle des habitants. Il n'est pas trop tard pour bien faire, mais nous ne voyons rien venir. L'historique et la projection des investissements futurs restent très partiels. Une partie importante des investissements de votre mandat sont soit hérités du mandat précédent, comme le rachat du prieuré. Là, j'ai perdu ma ligne. Je ne sais pas du tout où elle est. Prévu depuis 15 ans, soit s'impose de même comme la rénovation de l'école de la Renault. On peut penser que des provisions régulières ont été faites pour anticiper ces travaux, comme les 408 000 euros en 2012 pour le prieuré, rappelé dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous avez d'ailleurs omis d'indiquer lors de vos vœux la chute à 1 million, là, qui a été présentée ce soir, 1 million d'investissements en 2025, et le report du financement du prieuré par l'équipe qui vous succédera, même si vous placez tout de même 400 000 euros d'études d'ici là. Après moi le déluge, c'est ce que semblent dire les 13 années de désendettement prévues en 2027. soit vous avez prévu de ne plus être aux commandes en 2027, soit vous avez déjà prévu un dispositif qui va éviter un tel niveau de désendettement. Une telle présentation catastrophique des budgets semble vouloir nous conditionner progressivement vers un abandon de la coûteuse trémie, sans pour autant impacter les projets immobiliers qui suivent, eux, leur calendrier. Parlons maintenant des recettes fiscales. Globalement, elles sont basses, comparées à nos voisins. C'est en particulier lié à la taxe foncière sur les bâtiments industriels et commerciaux. Peut-être serait-il intéressant de comparer béton avec la strate nationale. Je crois que la comparaison n'a pas été faite non plus ce soir, il me semble. Donc, si on regarde le poids de la fiscalité pour une maison comparable, la maison baladeuse, l'impôt foncier, en revanche, est au-dessus de la moyenne de nos voisins, y compris Saint-Grégoire. 7 communes sont en dessous de nous et 5 communes, évidemment, sont au-dessus. On note donc que, même si l'activité économique a connu une réelle progression locale depuis 10 ans, cela ne suffit pas à combler notre retard vis-à-vis des communes voisines. Ainsi, dans votre orientation budgétaire, la commune doit continuer à augmenter rapidement ses recettes, avec peu de compensation pour les bétonnés en difficulté, et sans que la population n'ait le temps d'intégrer ces nouvelles dépenses dans son budget familial. Selon les chiffres qui nous ont été présentés, une petite partie de l'augmentation des recettes fiscales est liée à l'augmentation de la population, 5% environ depuis le début du mandat. Mais cela dit, entre 2022 et 2024, les recettes fiscales ont augmenté de 20,63%. Et depuis le début du mandat, c'est une augmentation des recettes de 35,92%. Si nous avions décidé une telle augmentation des recettes fiscales, ce serait pour soutenir un projet politique. Selon les priorités fixées par un groupe de citoyens volontaires, parfaitement informés sur les possibilités financières de la ville, nous aurions peut-être investi dans la transition énergétique et le maintien de la biodiversité pour préparer l'avenir. Nous aurions peut-être eu une politique d'emploi massif pour augmenter les services à la population. Enfin, ce serait sorti des groupes citoyens de co-gouvernance. Votre augmentation, elle, ne semble là que pour rattraper le gel fiscal imposé par les mandats précédents qui ont mis les finances de la ville dans le rouge. Je vous remercie.
Nicolas Jaouen. C'est Nicolas Jaouen.
Souci. C'est juste qu'il avait levé le doigt avant moi, c'est pour ça que je voulais lui laisser la politesse, mais il n'y a pas de souci. Ah non, mais il n'y a pas de souci, madame la maire. Très bien. Le rapport d'orientation budgétaire suscite plusieurs interrogations. La première est assez simple, c'est dedans on voit qu'il y a 30 logements qui sont prévus en 2026 dans un lieu qui est inconnu et je me demandais où était ce lieu, même si j'ai des suppositions, j'aurais aimé avoir confirmation. Ensuite, le projet de rénovation de l'ancienne école privée du prieuré prévoit des dépenses importantes, mais l'utilisation future du bâtiment n'est pas encore définie. D'autres pistes de réflexion avaient été proposées, mais elles n'ont, semble-t-il, pas été retenues. Par exemple, on peut citer la proposition de Béatrice qui était d'essayer de créer un partenariat public-privé qui aurait réduit la somme des dépenses et du coup l'augmentation d'impôts pour les bétonnés. Une question se pose par contre, c'est est-ce qu'une prise de contact a été faite avec la Banque des Territoires, dont c'est une partie du rôle d'aider à trouver des projets pour rentabiliser ce sort d'opération, voire même aider à trouver des financements? En tout cas, ça serait intéressant de le faire si ce n'était pas le cas. Enfin, je trouve en tout cas, nous trouvons. Sinon, Madame la Maire, nous connaissons votre volonté de préserver le bâti et les techniques qui sont présentes dans la construction du prieuré. Cependant, cette démarche entraînera certainement une augmentation du coût des travaux. Compte tenu de la valeur patrimoniale de ce lieu chargé d'histoire, ne serait-il pas judicieux de demander d'abord à classer celui-ci au titre des monuments historiques? Certes, ça augmenterait encore un peu la facture, mais nous pourrions profiter d'aides de l'État, de la région, voire même du département, selon les départements, bien sûr. En l'absence d'une vision claire de l'avenir du bâtiment, le rôle qui sera le sien, il nous semble inopportun d'y investir autant de moyens financiers. Ensuite, comme à chaque débat d'orientation, nous constatons le manque de bâtiments avec des activités créateurs d'emplois, un choix de longue date, certes, qui a pour conséquence, une conséquence assez importante, sur les finances municipales. En commission, votre adjoint, Amin Amar, nous a indiqué qu'il faudrait une vingtaine d'années pour changer cela. Cependant, dans le rapport d'orientation budgétaire, nous voyons aucune action concrète qui annonce un changement qui pourrait commencer à remédier à ce problème. Pire, je pense, c'est que lors des vœux, Madame la maire a annoncé la construction de logements sur le site du hangar Mellay. Cette décision n'est pas surprenante en soi. Elle va à l'encontre de nos propositions, notamment la réflexion autour de la construction de bureaux, de commerces, de tiers-lieux, qui auraient apporté une fiscalité différente sur ce lieu et à la ville, dans le futur, effectivement, pas à l'instant T. Elle est également regrettable, car elle ne permet pas de développer le secteur de la gare dans son ensemble. Deux points qui nous semblaient pourtant avoir trouvé un écho auprès d'une partie de votre majorité. Lors de la rénovation, alors le projet de rénovation du prieuré d'un côté, le projet sur le secteur de la gare, où on sait maintenant qu'on est propriétaire du parking, on sait aussi que la SNCF a un bâtiment en face qui est inoccupé, malheureusement, l'ancien guichet, fait qu'on a la possibilité unique, l'occasion unique, de pouvoir créer avec les habitants, bien sûr, un lien entre, d'un côté, le futur quartier de la Place et ses futurs commerces, au milieu la gare. On arrive sur la place du Calvaire, la mairie et enfin le prieuré qui nous ramènera vers la place du Trégor. C'est une opportunité unique et je pense que c'est dommage que ça ne soit pas plus mis, qu'on ne prenne pas le temps d'y réfléchir un peu plus et de discuter de ça avec les habitants. Enfin, nous pensons.
Juan Sauvaget.
Merci. Lors de la commission finance du 11 janvier dernier, M. Hamard nous précise très furtivement une hausse de 7% de la taxe foncière. Nous finissons l'année 2023 avec une épargne nette faible, malgré une aide exceptionnelle d'un million d'euros. Quelle aurait été la situation de notre ville sans cette aide ? Pourtant, au vœu, Madame la maire, vous avez assuré aux bétonnaises et bétonnais gérer la ville de béton comme une bonne mère de famille. Comment pouvez-vous dire ces mots le 12 janvier et présenter ce rapport d'orientation budgétaire le 24 janvier ? Madame la maire, gérer comme une bonne mère de famille, c'est par exemple revoir les investissements à la baisse. Comme m'a dit l'un de vos adjoints récemment, il faut arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Quand il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, on arrête. L'augmentation d'impôts semble pourtant être votre seule solution. Madame la maire, il est temps de réagir et de revoir ensemble nos engagements afin de ne pas paupériser nos concitoyens qui, comme tout le monde, sont impactés par la hausse du coût de la vie, de l'énergie et de la garde des enfants le mercredi toute la journée. Je vous remercie.
Donc, il y avait Bruno aussi. Thierry.
Oui, merci. Courte intervention sur la question des investissements, en disant que les investissements sont non seulement nécessaires au maintien d'une dynamique de ville et puis à l'adaptation des outils de la ville aux attentes et aux besoins de la population et aux enjeux environnementaux notamment, mais aussi pour dire que les investissements, c'est l'occasion de trouver de nouveaux financements pour aider au développement de la ville. En témoigne ce qu'on a pu effectivement trouver comme financement sur l'école maternelle de l'Aéronautique ou sur la piste d'athlétisme, puisqu'on a réussi à aller jusqu'à 38%, et pour dire qu'il me semble que c'est nécessaire effectivement qu'on puisse développer cette culture-là dans tout investissement, d'aller rechercher des cofinancements pour améliorer les finances de la ville.
Merci. Alors, il y avait Bruno, je crois, et après ce sera Amine.
Merci, Madame la maire. Monsieur Annex, vous faites allusion à la gestion des finances lors de la mandature précédente. J'ose vous rappeler, M. Annès, que vous faisiez partie de cette majorité. Je n'ai pas souvenir de vos remarques quand vous deviez, quant aux décisions financières auxquelles vous faites allusion, ou aux dérives financières auxquelles vous faites allusion. Remettriez-vous en cause aujourd'hui, que vous êtes dans l'opposition, les projets que vous avez approuvés à l'époque, la salle des sports des Omblets, la restructuration de la zone commerciale du Trégor, la reconfiguration de la rue de Rennes, la rénovation de l'école maternelle des Omblets, la construction du service de restauration, la reconfiguration de la place Charles de Gaulle et bien d'autres projets qui ont été réalisés. Je trouve ça un peu pitoyable comme réaction. Merci, Madame la maire.
Monsieur Hamard, si vous voulez répondre.
Oui, merci, Madame la maire. Merci à celles et ceux qui se sont exprimés. Peut-être quelques éléments de précision davantage que de réponse, parce que tout n'appelle pas une réponse et ce sont souvent des choix différents qui s'expriment entre nous sur la façon dont on gère la commune et c'est tout à fait compréhensible que nous ne soyons pas spontanément convergents. Quelques mots pour au moins signifier nos accords, le désengagement de l'État. Nous sommes évidemment les uns et les autres sur cette même analyse. La suppression de la taxe d'habitation, moi, je n'étais pas là au début, comme dit l'autre, je n'ai jamais entendu le propos que vous prêtez à Quentin Jagorel, mais pour ma part, j'ai toujours été un farouche ennemi ou adversaire de cette suppression de la TH, et la situation dans laquelle notre commune, mais d'autres communes et d'autres collectivités territoriales sont aujourd'hui, trouve en partie son origine dans la suppression de la TH, qui est venue bouleverser des équilibres financiers, et notamment dans une commune où l'industriel et commercial ne pèsent pas beaucoup. Et je pense que nous partageons ce raisonnement. Sur la majorité antérieure et ce que vous avez qualifié d'errement, je n'y étais pas non plus, mais je suis en tant que citoyen, je suis tout à fait heureux des choix qui ont été faits par la majorité antérieure. Vous avez évoqué des tarifs municipaux non solidaires. Je ne puis évidemment pas être d'accord avec cette qualification. Nous les avons depuis deux ans conçus précisément pour assurer une forme de solidarité. Je rappelle que nous avons sur les tranches, sur la tranche des revenus les plus modestes, nous n'avons pas appliqué l'inflation, et puis nous avons progressivement appliquer l'inflation sur les tranches successives, mais c'est donc bien là la preuve que cette grille tarifaire est une grille solidaire, puisqu'elle tient compte des capacités contributives des uns et des autres. Vous avez évoqué les résidences secondaires, et il y a quelque chose de toujours très drôle avec cette expression non négligeable. Vous avez dit qu'elle représente un nombre non négligeable. cette expression veut à la fois tout dire et l'inverse, si j'ose dire. C'est 0,8% des résidences totales, les résidences secondaires. Et c'est, je parle sous le contrôle d'Irène, 90 000 euros, je crois, globalement, de recettes, et un peu moins même, de TH. Voilà. Alors, je vous rassure, la TH augmentera et la majoration, nous vous proposerons une majoration, comme la loi le permet désormais, nous vous proposerons une majoration, mais nous avons jusqu'à octobre pour le faire. Et donc, nous y travaillons. Vous avez également évoqué le fait que il fallait profiter d'une époque où les taux d'emprunt étaient bas. C'est entre 2018 et 2022 que les taux étaient les plus bas historiquement. Je regarde les chiffres qui sont disponibles dans le rapport qui vous a été distribué, et je constate que nous avons emprunté 7 millions sur cette période de taux bas. 7 millions, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, nous avons profiter d'une politique d'argent dit bon marché. Nous l'avons fait, mais nous l'avons fait à notre mesure. Vous évoquiez à juste raison le fait que les annuités de désendettement, le cycle de désendettement, et que nous étions quasiment en fin de période à 13 ans, c'était beaucoup. Voilà. Et imaginez que nous aurions, si nous avions emprunté 16 ou 17 millions à taux bas, nous serions à 16, 17 années de désendettement. Donc nous l'avons fait à la mesure, un, de nos besoins, deux, de nos moyens. Et je pense que nous n'avons pas si mal fait que ça. Monsieur Bidot, vous avez évoqué le filet de sécurité en disant que nous l'avions utilisé au désendettement. C'est votre mot, je l'ai noté, mais ce n'est pas ce que nous avons fait en réalité. Nous avons évité l'endettement. C'est une toute autre démarche. Voilà, mais c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Voilà, mais c'est, je crois que ça méritait d'être signalé. Et peut-être même d'être inscrit au PV, qui sait. Voilà. Sur le reste, les panneaux solaires, l'autoconsommation, etc., on ne peut qu'être d'accord avec le raisonnement qui est le vôtre, et on ne se prive pas d'ailleurs dès qu'on peut le faire, d'installer des panneaux photovoltaïques, évidemment dans une mesure bien moindre que celle que vous appelez de vos voeux, mais nous le faisons là encore à notre rythme et selon nos moyens, et nous le faisons dans une politique équilibrée d'investissement. Nous ne choisissons pas entre la réfection de telle école, entre la construction de tel équipement et une logique du tout panneau solaire. Nous essayons d'équilibrer, mais là encore, on peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème ni une difficulté de ne pas être d'accord, et chacun a le droit d'exposer la manière dont il voit les choses. Sur l'utilisation future du prieuré qu'évoquait M. Jaouen, l'idée d'un partenariat public-privé, c'est une idée qui, effectivement, n'a pas été au cœur de nos réflexions, mais pour une raison, alors là, disons les choses, en tout cas pour moi, à mon niveau, très simple, c'est que le partenariat public-privé, c'est un modèle économique qui ne nous convient pas. C'est un modèle économique dont je me souviens très exactement qu'il a été mis en place au moment de Nicolas Sarkozy. Et c'est un modèle économique, je le sais bien pour avoir géré une université, c'est un modèle économique qui coûte très cher aux collectivités qui l'utilisent. Et c'est un modèle économique où la propriété n'arrive en retour à la collectivité qu'au bout de 35 ans ou de 40 ans, c'est-à-dire il y a un cycle d'amortissement, et une fois que, comme disait le regretté Coluche, une fois que la propriété vous revient, ce sont les ruines qui vous appartiennent. Voilà. Et sur les activités commerciales et de bureau, je suis assez d'accord avec vous. Il faut qu'on y travaille et qu'on y travaille vite. Parce qu'effectivement, plus les choses sont longues à se mettre en place, plus il faut décider vite. Mais encore faut-il que nous ayons des marges de manœuvre pour le faire. Et puis, dernière remarque pour ma part. Erwan Sauvager a indiqué quelque chose qui m'a beaucoup étonné en disant que j'ai furtivement, en commission finances, parlé des 7%. Il me souvient, mais je parle sous le contrôle parce que je suis vieux et ma mémoire est défaillante, il me souvient, les personnes présentes pourront infirmer ou confirmer, que j'ai même, au contraire, marqué mon étonnement en disant « Est-ce que vous avez bien entendu ?» j'ai évoqué l'idée que nous augmenterions les taux de 7%. Voilà, je me souviens très très bien de ma réaction parce que j'étais étonné du silence qui a pesé au moment où j'ai annoncé ces 7%. Donc la furtivité, nous n'avons, mais le français n'est pas ma langue maternelle, nous n'avons sans doute pas la même définition de la furtivité. Merci beaucoup.
Merci. Donc je donne un tour de parole. Voilà, vous avez pu vous exprimer. Le débat n'est pas clos sur d'autres instances de conseil municipal. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des prises de parole, vous avez pu vous exprimer. Et Amine a rapporté quand même beaucoup de réponses. Oui, ben je pense qu'à propos de citer des noms, beaucoup de gens autour de cette table pourraient répondre. Bon, je souhaite que les interventions soient très courtes, parce que c'est un débat, mais voilà, je souhaiterais qu'il y ait des prises de parole, vous posez toutes vos questions. Et, voilà. Donc, monsieur Annex et monsieur Jaouen.
C'est un débat, il y a eu des exposés, maintenant on débat. Oui, pour revenir voilà. Sur ce que dit Amine Amar.
Monsieur Annex.
Vous m'avez donné la parole ?
Non, oh, pardon, monsieur Annex. Je disais monsieur Annex, monsieur Jaouen, monsieur Bidot. Donc, monsieur Annex, rapidement.
Pour répondre à M. Amar sur les tarifs municipaux qui pourraient être un peu plus solidaires, ça faisait écho à un débat qu'il y avait eu autour de cette table lors d'un conseil municipal lorsqu'on a fixé les tarifs municipaux et que notre collègue Nicolas Jaouen avait évoqué d'autres possibilités. Donc c'est, voilà. À la marge, les résidences secondaires, je disais ça par rapport au nombre de résidences concernées, pas par rapport au montant de la somme éventuellement estimée de recettes, parce que lors des deux commissions finances successives, ce nombre de résidences avait augmenté de façon assez conséquente. Donc c'est pour ça que je parlais de monter en puissance du nombre de résidences, d'habitats. Voilà. Et là, et très rapidement, pour répondre à M. Rohon, moi, il n'y a aucun souci sur le fait que je suis en effet fier d'avoir accompagné les réalisations sous l'ancienne mandature. Cependant, ce n'est pas en termes de réalisation, mais de finances, mon intervention. Moi, je reprends, sans doute, vous avez collaboré, c'est votre programme, sans doute que vous avez collaboré à la rédaction de ce programme. Et donc, je ne le vais pas loin, sur la fiscalité, c'est un bilan solide sur lequel nous pouvons nous engager dans l'avenir, six ans, sans aucune augmentation d'impôts, un petit peu plus loin, fiscalité, finances, pas de hausse des impôts depuis 2002, gestion rigoureuse des finances, 24 millions d'investissements sur le mandat. Voilà, moi je suis, voilà, c'est simplement vos écrits. Hein.
On va vous expliquer, voilà. Monsieur Jaouen, rapidement.
Oui. Pour répondre sur les partenariats, effectivement, je n'ai pas souvenir, par contre, alors, c'était le 7 juillet 1983 qu'ont été créées les sociétés à économie mixte. Je ne suis pas sûr que c'était Sarkozy qui était président, mais peut-être me suis-je trompé. Ah oui, c'est une forme de partenariat privé-public. Mais bon.
Monsieur Bidot.
Alors, moi, j'ai apprécié la réponse d'Amine. Je trouve que c'est une des meilleures réponses qu'il ait faites en conseil. C'est vrai. Et je voulais revenir juste sur la petite remarque de monsieur Amar, pardon, et de monsieur Rohon, qui est en fait une réponse à vous, la majorité. Hein. Donc, si vous avez bien entendu, c'est à vous d'être vigilant, de ne pas forcément croire ce qui se dit au niveau des finances. C'est à vous de creuser le truc. Parce que s'il y a un problème de finances, ce sera vous, votre responsabilité. Et vous ne pourrez pas la ramener plus tard. Si vous avez envie de changer d'opinion ou de revenir sur des idées, des votes qui ont été faits, vous avez voté, vous êtes responsable de tout ce qui peut être présenté ici en termes de finances. Donc, c'est à vous de vous engager pour que, si ça ne vous plaît pas, ça change. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'était tout.
On verra si vous êtes bon commercial. Monsieur, donc, moi, je voudrais amener quelques compléments sur ce qui a été dit, notamment sur les mandats précédents. En fait, la raison pour laquelle, Amine l'a expliqué maintes et maintes fois dans les réunions, et Quentin Jagorel aussi, la raison pour laquelle il n'y avait pas d'augmentation de la fiscalité pendant un certain nombre d'années, alors qu'il y avait des investissements favorables à l'accueil de la population et qui précédaient la population, c'est parce qu'il y avait une épargne nette importante aussi, où il n'y avait pas forcément toutes ces dépenses d'aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi cette épargne nette qui était confortée par les budgets annexes, par les lotissements qu'on faisait en régie, par les participations de ZAC, sur de l'extension urbaine, et extension urbaine qui sera dorénavant de plus en plus difficile, puisque vous savez très bien que la loi de climat et résilience de, 20, de août 2021 proclame le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, et c'est quelque chose que j'espère nous partageons autour de cette table sur limiter la consommation des espaces agronaturels et refaire la ville sur la ville, mais ce n'est plus du tout le même contexte. Dans un autre domaine, sur les panneaux photovoltaïques, très cher à notre collègue Monsieur Bidot, moi je dirais que la première énergie est celle que nous ne consommons pas. Donc c'est la rénovation thermique de nos bâtiments et c'est ce à quoi nous nous employons. Alors peut-être que ce n'est pas ambitieux de rénover un bâtiment qui existe déjà de façon sobre, mais c'est quand même la première chose à faire avec le bon sens. Je donne souvent cet exemple, panneau photovoltaïque sur cet ensemble, si on ne rénove pas la coque, si on ne l'isole pas, je suis désolée, mais ça n'aura pas beaucoup de sens. Et puis, sur le prieuré, juste, on s'était mis, on a longtemps échangé en commission aussi sur ce bâtiment, qui est un bâtiment historique, et donc le souhait, c'est qu'il soit aussi accessible au plus grand nombre, et donc c'est la raison pour laquelle il est envisagé une rénovation à usage, pour un usage plutôt type associatif ou service jeunesse, et donc au public et à la population bétonnaise. Voilà quelques éclairages, parce que je pense que M. Amar a répondu à bon nombre des points que vous aviez soulevés. Et donc, moi, je voudrais d'abord vous remercier pour cet échange, remercier aussi Amin Amar pour cette présentation, et je m'associe également à ces remerciements envers les services, Madame Javaudin et tous les collègues de la mairie qui ont participé à ce rapport d'orientation budgétaire. Donc, ce rapport qui a présenté la rétrospective. Donc, je voulais rappeler quelques éléments, mais Bruno Rond en a fait allusion. Il n'y a pas eu d'emprunt pendant plusieurs années, de 2008 à 2007, ni augmentation d'impôts. Je viens de vous évoquer les raisons pour lesquelles il n'y avait pas eu d'augmentation d'impôts. Et ça a été des investissements structurants qui ont été réalisés en amont de l'accueil de population. Donc, je pense à la médiathèque, au complexe sportif de la Touche, à la rénovation de l'école élémentaire de la RNO, à la ferme de la Chaperonnais qui accueille la salle des familles et la LSH, à la Confluence, rénovation de la Confluence également, et à la salle des sports des Omblets, pour citer les grands investissements, mais il y en a eu plein d'autres aussi pour l'accueil de la population. Alors, qui remettrait aujourd'hui en cause ces investissements? Quels élus toujours présents autour de cette table s'y étaient opposés à l'époque? Personne, ça rejoint, vous avez répondu, monsieur Annex, mais je vous ai répondu aussi sur l'aspect financier, et vous savez qu'une collectivité ne peut pas faire appel à l'emprunt si elle dégage une épargne nette suffisante et qu'elle peut autofinancer. On n'a pas le droit de faire des emprunts en prévision d'eux, donc il faut avoir des budgets sincères. La plupart de ces investissements ont été financés sans emprunt et sans augmentation d'impôts, car le budget de fonctionnement dégageait alors une épargne nette importante, confortée de surcroît par le reversement des budgets annexes. Il était alors impossible de prévoir les crises successives que nous avons connues depuis 2020. Monsieur Amar l'a cité aussi, le contexte notamment d'inflation et particulièrement sur l'énergie. Mais aujourd'hui, notre épargne nette est plus faible pour les multiples raisons qui vous ont été présentées, et notamment le désengagement de l'État, puisqu'on sait aussi que depuis un certain nombre d'années, toutes les dotations de l'État baissent petit à petit et l'État est de moins en moins à nos côtés. Il nous impose même certaines choses sans être financées. On pourrait parler dernièrement, par exemple, de l'uniforme à l'école qui pourrait être imposé, financé par les collectivités. Nous devons donc emprunter beaucoup plus qu'à une époque, ce qui engendre des frais financiers et qui diminue d'autant l'épargne nette. Et quand on a une épargne nette plus faible, il nous faut encore plus d'années pour nous désendetter. Et c'est parce que nous avons une épargne nette que le nombre d'années augmente pour le désendettement. Tout ceci pour... Alors, nous devons donc emprunter beaucoup plus. Amine Amar a cité quelques emprunts. Tout ceci pour financer la rénovation, l'extension ou la création d'équipements publics, avec comme objectif la réduction de la consommation d'énergie et la baisse de l'impact environnemental. Je parle notamment de l'isolation thermique des bâtiments ou de l'emploi de matériaux biosourcés. Aujourd'hui, nous prévoyons une augmentation de la fiscalité parce que nous soutenons les initiatives en direction des solidarités. C'est vrai que nous avons aussi pas forcément présenté les budgets de fonctionnement. On verra le budget de fonctionnement le mois prochain, mais c'est quelque chose que nous soutenons parce que nous maintenons nos politiques publiques pour l'accueil de notre population, diverses et variées dans tous les domaines, parce que nous poursuivons la rénovation de nos équipements publics en faveur de la transition écologique, tout en maîtrisant, bien que certains disent le contraire, rigoureusement notre budget de fonctionnement et d'investissement, et parce que nous ne voulons pas obérer l'avenir pour les générations futures. Et donc, c'est pour cela que nous prévoyons cette augmentation de la fiscalité en maintenant tous ces investissements et ces politiques de fonctionnement, politiques de la ville. Je vous remercie pour ce débat. Et donc, dans la délibération, il vous est proposé de débattre sur le rapport d'orientation budgétaire 2024 en vue de vote du budget et de prendre acte de ce rapport d'orientation budgétaire 2024. Il faut voter ? Donc, il faut voter, me dit-on. Donc, y a-t-il des oppositions ? On vote de prendre acte, c'est-à-dire on a pris acte de ce rapport. Y a-t-il... Alors, la préfecture... Donc, la préfecture nous a fait, dans le cadre du contrôle CRC, c'est ça ? Non ? Bon. L'année dernière. Donc, nous prenons acte et nous votons que nous avons eu toutes les informations pour débattre sur ce rapport d'orientation budgétaire. Il sera de débattre sur le rapport d'orientation budgétaire 2024 en vue du vote du budget de la ville, de prendre acte de ce rapport d'orientation budgétaire 2024. De prendre acte de ce rapport d'orientation budgétaire. Si vous ne prenez pas acte, c'est que vous estimez que vous n'avez pas eu les informations suffisantes pour ce rapport. Donc, voilà. Bon. Donc, oui. Donc, alors, on vote. Opposition, abstention, 5 abstentions. 6 abstentions. Bien. Nous passons au point suivant. Le point 8 sur les travaux de l'école de la Renault. Monsieur oui. Rouen.
Merci Madame la Maire. Donc effectivement, ça concerne les travaux de restructuration de l'école maternelle de la Renault. Donc c'est une délibération relativement classique quand on fait ce type de travaux, un travaux de rénovation et de réhabilitation qui provoque quelquefois donc des travaux supplémentaires ou des imprévus. Hein. Donc vous avez ici la liste des avenants qui sont à prendre. Hein. Je ne vais pas les lister un par un. Je vous invite simplement à prendre connaissance du montant total de ces avenants qui représentent, ce montant représente plus de 20 191 euros, et ce qui représente un pourcentage inférieur à 1% du montant des travaux. Donc, pour information, hein, les travaux se déroulent plutôt bien. Il y a un tout petit peu de retard suite à un souci avec un des artisans, le menuisier qui pose les fenêtres. Mais pour l'instant, le calendrier est respecté. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'agréer la passation des 8 avenants ci-dessus proposés, d'autoriser la maire à signer les 10 avenants ainsi que tout document utile se rapportant à l'application de la présente décision.
Merci. Y a-t-il des questions, remarques ? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Et le dernier point porte sur les déclarations d'intention d'aliénés n'ayant pas donné lieu à préemption. Et enfin, les remerciements. Donc, les remerciements de la collecte de sang du 1er et 2 décembre 2023. Voilà, l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. La feuille a circulé des signatures ? Oui. Moi, je n'avais pas signé. D'accord. Donc, avant de passer les questions publiques, y a-t-il une question ? Monsieur Cornichet ?
Merci Madame la maire. Deux questions qui devraient amener des réponses assez rapides. L'avenir de la collecte des déchets verts par relais service a fait l'objet de nombreuses interventions, questions de notre part. Deux adhérents de cette association sont intervenus ici en conseil municipal pour faire part de leur désarroi. Lors du bureau municipal du 15 janvier 2024, Monsieur Fouchou a précisé que relais service démarrait en janvier la nouvelle organisation de la collecte des déchets verts hors tonte de pelouse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer cette organisation et plus particulièrement l'impact sur le service rendu et l'emploi ? Et la deuxième question, plus spécifiquement à Madame Landais, lors du conseil municipal du 8 novembre 2023, Monsieur Bidot vous a fait part de nos questions au sujet du rapport d'activité 2022 prix et qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Vous avez pris l'action de transmettre nos questions au service de Rennes Métropole concerné et de nous fournir les réponses. À ce jour, nous n'avons pas les réponses. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un avancement de cette démarche ? Merci.
Donc, sur les réponses rapides, bon, voilà, quelquefois, il faut aussi le temps d'aller chercher. Et donc, il faut un petit peu de temps, surtout quand il y a une trêve de fin d'année, début d'année. Donc, voilà. Monsieur Fauchou, sur la question relative aux déchets verts.
Alors, les déchets verts, je rappelle que le collecte des déchets verts jusqu'ici était un service assuré par une association, un service proposé et assuré par une association. Et effectivement, pour rappeler le contexte, quand Rennes Métropole a décidé que les pelouses ne seraient plus acceptées dans sa déchetterie, dans ses déchetteries, l'association a été confronté à la difficulté suivante, c'est que le transporteur qui assurait sa collecte disait « ça n'est plus rentable aujourd'hui pour moi de ne venir collecter que des végétaux et du coup j'arrête ». Face à ça, il y a eu effectivement un certain nombre d'habitants de la ville de Béton et d'adhérents de l'association qui se sont mobilisés en disant « mais demain on fait quoi de nos déchets ?» Et on a souhaité accompagner l'association à une réflexion en disant « il faut maintenir quelque chose ». Alors, juste dans le contexte, ce qui est bien à savoir, c'est qu'au mois d'avril-mai, l'association pensait complètement arrêter cette activité-là. Dans l'accompagnement qu'on a proposé, les services, mais aussi Jean-Yves Loury et moi-même, on a pris du temps pour réfléchir avec l'association sur deux nouvelles hypothèses. J'ai présenté à plusieurs reprises en questions diverses ces nouvelles hypothèses, et notamment au bureau également, pour maintenir mes collègues informés. Sachez que ce qui est proposé aujourd'hui, ce qui a été proposé à l'Assemblée générale de l'association au mois de décembre, Et ce qui va se mettre en place, c'est effectivement une collecte des végétaux, alors qui ne sera plus collecte des déchets verts, mais qui s'appellera collecte des végétaux, qui se fera entre septembre et février, c'est-à-dire au moment du en dehors des périodes où la sève monte dans les végétaux, et du coup pour des raisons environnementales et de biodiversité, que la collecte sera assurée par un professionnel de béton, Sylvain Guillotel pour le nommer, qui effectivement assurera la collecte au rythme de 2 passages par semaine. Alors il y a 4 secteurs qui ont été définis, 1, 2, 3, 4, les semaines impaires, il passera dans les secteurs impairs. L'association est en train d'établir sa liste des rues, j'y étais cet après-midi encore avec eux, et les semaines paires dans les secteurs impairs. Ça devait se mettre en place au 15 janvier. Semble-t-il, il y a des petits retards, mais au 1er février, normalement, tout devrait se mettre en place, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, et notamment dans les secteurs impairs. Mais je rappelle, c'est un service assuré par une association auquel nous sommes extrêmement vigilants, parce que c'est un besoin que un certain nombre d'habitants rencontrent aujourd'hui. De 400 ou 500 adhérents qu'il y avait jusqu'ici sur la collecte des déchets verts, sur la collecte des végétaux, ils en sont à 150. Donc ça a énormément diminué. La ville a proposé des accompagnements, notamment au moment du forum de rentrée, pour bien dire effectivement que comment on pouvait gérer ces déchets, notamment ces pelouses. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On espère tous qu'à partir de la semaine prochaine, ça démarre.
Merci. Sur quelques éléments sur le rapport des déchets métropolitains, Alice Landais.
Oui, merci Madame la Maire, ça va être très rapide, je n'ai pas encore les réponses que vous demandez.
Merci. Monsieur Annex.
Je vous remercie. Un petit propos, puis après à la fin une question, mais ça va être rapide. Madame la Maire, par un appel téléphonique jeudi 18 janvier à 9h, vous m'informez que vous avez décidé de partager les locaux de l'opposition minorité avec les dissidents de votre majorité. Et ce, sans en avoir modifié le règlement intérieur de notre conseil municipal. Ces élus de votre majorité, issus de votre liste Béton Ensemble, sont pour une bonne partie actuellement encartés dans le même parti politique que vous. Nous constatons que quasiment toute votre aile gauche vous a abandonné avec le récent départ de Jean-Luc Voléon. Une question se pose. Qu'allez-vous faire quand la branche de droite et de centre-droit de votre majorité va vous abandonner à son tour pour suivre son propre projet? Nous devrons également partager les locaux avec elle. Il ne suffit pas de se déclarer contre votre majorité pour diminuer les moyens de l'opposition élue. Quelle est cette forme de république que vous défendez? Vous devez différencier d'une part les déclarations individuelles de vos colistiers et d'autre part les résultats électoraux obtenus dans les urnes par les choix de la population. Ces graviers que vous avez vous-même mis dans votre chaussure lors de la constitution de votre liste, validée par les électeurs bétonnais, n'ont rien à faire dans la nôtre de chaussures. À vous de rester, si je peux me permettre, droite dans vos bottes, même s'il n'y a plus de place pour y mettre vos pieds, faute de trop de gravier. Lundi dernier, il n'y avait toujours qu'un seul placard, fermable à clé, dans le local que vous souhaitez attribuer à l'opposition et à vos décidants. Pouvez-vous, Madame la Maire, nous communiquer le délai que vous avez envisagé pour travailler sur le règlement intérieur afin de solutionner cette situation ubuesque? Merci, Madame la Maire.
Bon, je ne vais pas répondre sur la même tonalité que vous, monsieur Annex. J'apprécie pas trop ces largesses. Voilà. Je vais simplement vous relire le règlement intérieur sur la mise à disposition du local, qui, à mon avis, est parfaitement clair, puisque dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. Et plus précisément à Béton, ce que nous avions travaillé, il est satisfait à toute demande express de mise à disposition d'un local commun émise par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois suivant cette demande. Donc j'ai encore un peu de temps, mais n'appartenant pas à la majorité municipale, Je considère que les élus désolidarisés de notre liste majoritaire n'appartiennent plus à la majorité municipale. Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, la maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. Donc le local est situé à l'adresse suivante, premier étage de la maison de l'emploi située 28 avenue d'Armorique. Donc nous avons consulté, nous sommes parfaitement dans notre droit d'accorder au groupe élu indépendant désolidarisé de la majorité ce local avec cette information que je vous ai donnée. Et donc, si vous ne vous accordez pas entre vous, je ferai la répartition. Et si vous n'en êtes pas d'accord, je vous demande de m'apporter la preuve du contraire, tout simplement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous m'apporterez la preuve que je suis en tort. Et c'est tout ce que je peux vous répondre. Voilà. Mais vous m'avez interpellé sur le local, je vous réponds sur le local et l'article du local du règlement intérieur permet cette mise à disposition. Point barre sur cette question du local. Je vous ai pas dit que j'avais pas l'intention de pas le revoir. C'était surtout sur le local. Règlement intérieur, mais après vous avez largement parlé sur le local. Donc je vois que ce n'est pas si simple que ça. On m'a demandé de revoir le règlement intérieur. On a fait une réunion avec la dissidence le 20 décembre sur des modalités suite à leur demande du 14 décembre. Et donc avec la trêve aussi de fin d'année, je pense que chacun a le droit aussi à un peu de repos et puis la recherche de renseignements. Donc c'est un travail que je vais reprendre dans les semaines qui viennent. Merci. Ouais, non mais bon, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas 50 questions qui viennent finir le conseil municipal, quoi. Enfin, on peut y passer la nuit aussi, monsieur Bidot. Allez-y, 5 minutes.
Où on se demande pourquoi donner à une association humanitaire qui, elle, va défendre ses propres projets, que nous, on ne soutient pas forcément, on ne connaît pas forcément les valeurs, etc. Et là, on savait avec Défi, depuis le début, que les valeurs de défense du droit des femmes à Madagascar, et puis là, on a vu toute la partie numérique également, on savait que ça nous convenait à chaque fois. Et c'était moins clair pour certaines autres associations en termes de projets, parce que c'est plus simple, en fait, pour la mairie de financer directement le projet qui nous intéresse plutôt que de passer par un tiers, dont l'objectif en général statutaire, c'est de collecter des fonds pour financer des projets. Là, on s'est rendu compte qu'avec Défi, ils collectaient beaucoup de fonds publics pour financer des projets. Enfin, pour nous, pas beaucoup, mais par rapport à leur enveloppe, c'est à peu près, j'ai peut-être mal lu, mais un tiers, deux tiers apparemment, deux tiers de public et un tiers de privé. Et nous demandions, est-ce que cette étape de présentation des projets de Défi faisait partie, allait entrer dans cette démarche d'attribution des subventions pour les associations humanitaires comme Béton Solidarité, par exemple. Est-ce que ça fait partie de ça, ou c'était vraiment un one-shot, comme dirait M. Hamar, une fois exceptionnellement?
La particularité du soutien qu'on apporte à Défi, c'est qu'on n'apporte pas un soutien sur le fonctionnement, mais on apporte un soutien sur l'action. Et qu'effectivement, ce sont des actions qui sont ciblées. La différence avec Béton Solidarité, c'est qu'on n'apporte pas un soutien sur l'action, mais on apporte un soutien sur le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on soutient Béton Solidarité pour qu'il puisse effectivement développer des actions pour récolter des fonds. En fait, il y a une grosse différence, elle est là en fait. Depuis très longtemps, Défi nous sollicitait pour intervenir. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des ordres du jour qui sont parfois copieux et que voilà, fallait caler. Là, aujourd'hui, il y avait 10 points. J'ai demandé à plusieurs reprises à la maire, Madame la maire, effectivement, de pouvoir caler ce point-là ce soir et ce qui a été accepté, ce qui nous a permis de faire ça. Il n'est pas question qu'on ait les 80 associations actives à Béton à passer ici parce que si c'est une par an, vous imaginez, on ne sera plus là pour entendre les dernières. Non, mais par contre, sur d'autres actions, quand on relèvera que c'est pertinent, potentiellement, on peut l'imaginer qu'à des moments donnés, il y ait des présentations qui soient faites. Mais ce sera exceptionnel. Et Défi, je le disais dans la présentation, c'est la manière dont la ville met en œuvre sa solidarité internationale. Voilà, on le fait avec l'ONG Défi de cette manière-là. On le fait avec Béton Solidarité en soutenant le fonctionnement. Et on le fait ponctuellement sur des événements tristes qui se produisent à travers le monde. Voilà. Mais il n'y en aura pas d'autres de prévus pour le moment.
Merci. Donc, je me permets juste de vous rappeler l'invitation aux vœux du personnel demain à 17h15 pour toutes celles et ceux qui pourraient se libérer. Vous êtes les bienvenus. Merci et très bonne soirée. Le public a-t-il des questions ? Rapidement, parce que c'est un gros sujet, et voilà. Toutes les communes aimeraient sans doute avoir un lieu d'accueil pour nos aînés, sous quelque forme que ce soit. Et donc la répartition au niveau du département ou des départements se fait via l'ARS, notamment sur le Grand Ouest, hein, la région. Et aujourd'hui, les places, il y a très peu de places créées et l'Ille-et-Vilaine est déjà bien dotée. Peut-être, enfin, il y a des réflexions en cours sur des rapprochements, des délocalisations, des lieux qui seraient transférés. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait évoqué il y a quelques années, enfin, lors de la campagne électorale, il n'y a pas d'avancée notoire en la matière. Il n'y a pas un terrain réservé et où le projet avance. Il y a des contacts. On est en recherche avec des personnes pour essayer d'avoir un EHPAD. On défend aussi cet objectif pour la ville de Béton. Mais c'est très dur d'avoir ces places et ces lieux et puis après ces financements. Voilà. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Thank you.